Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je veux dire, quelle chanceuse j'avais pu être que d'être embauchée sur un sujet, de l'avoir fait grandir, d'avoir voyagé avec des gens qui étaient incroyablement compétents, mais j'avais cette sorte de flamme qui me disait « c'est pas là où je suis la plus utile ». J'étais utile, mais c'était pas là, je sentais que c'était pas là où j'étais la plus utile. La petite voix, en fait, c'était une sorte d'intuition non opposable. Si l'idée m'était venue, elle était forcément montée à la tête des spécialistes, en fait. Et puis, je voyais que ça venait pas et je commençais de plus en plus à râler en me disant « je veux le faire ». Et puis, cette peur qui te prend encore en disant « mais attends, meuf, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie ?» Tu vois, enfin, je veux dire, tu sais pas, t'as pas étudié du commerce, donc tu ne sais pas monter une entreprise. La comptabilité, t'es dyslexique des chiffres quasiment. Il y a rien qui te saoule plus que l'engagement. Qu'est-ce que tu vas monter ça ? Donc je reportais. Et puis un jour, ça, je le raconte dans mon premier livre. Et c'est terrible, mais ça montre à quel point de temps en temps c'est un truc qui tombe au moment qui fait que ta vie va basculer.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Cela faisait plusieurs mois que j'essayais de joindre Catherine. Une fois encore, la patience a payé. Elle fait partie des femmes les plus médiatisées en France sur un thème qui m'est si cher. L'optimisme. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous. En en parlant autour de vous et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Retour à Catherine. Catherine est diplômée d'un master de sciences et génie de l'environnement. Sans le savoir, elle a toujours eu un cran d'avance. Elle se spécialise donc dans le développement durable en 2006, là où c'était un sujet réservé à une minorité. Puis dans le digital, avec la création de communautés aux côtés de l'EBG. Son job lui plaît, mais elle sent qu'elle est appelée ailleurs, créer un média positif. Catherine quitte donc tout et lance en 2016 l'optimisme. Elle est aujourd'hui entrepreneuse, chroniqueuse, conférencière et auteure. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Catherine Testa.
Bonjour Catherine.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet qui te présente, s'il te plaît ?
Ouais, quel exercice difficile. J'ai choisi un crayon, tout simplement parce que je crois que le crayon est très métaphorique de ce qu'on peut vivre en tant qu'humain, des pensées qui vont parfois s'incarner dans un carnet intime, qui parfois vont s'incarner plus publiquement, mais aussi d'un narratif de société qu'on peut écrire hein, quand on croque l'actualité, quand on la caricature parfois. Et j'aime beaucoup cette idée d'un outil qui peut être utilisé pour le meilleur et parfois pour le pire aussi. On peut écrire des propos acerbes, ça peut être violent en fait. Hein. Les mots peuvent être violents et voilà, je trouve que c'est très métaphorique comme objet, j'aime bien.
C'est très chouette. J'ai eu beaucoup d'objets parce que là, c'est à peu près la cinquantième personne que j'interviewe. J'avais jamais eu le crayon, mais j'avais eu la page blanche, mais pas le crayon. Donc, c'est très chouette. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi ?
J'ai grandi entre Paris et la Normandie. Donc, j'ai toujours eu une biculturalité un peu les pieds dans la terre de Normandie parce que je viens pas de Honfleur ou de Deauville. Hein. Je viens vraiment du Cotentin, des vaches. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Tous mes week-ends, je les passais ici. Donc, mes meilleurs week-ends sont les fesses sur la roue du tracteur. Alors, peut-être que ça évoquera quelque chose à ceux qui ont eu des grands-parents.
Ça me parle bien.
Et c'était mes plus beaux moments, c'était quand j'avais les fesses sur le tracteur et qu'on allait raboter la bouse des vaches. Hein. J'aime bien le rappeler. Et puis, j'avais en parallèle des semaines où je voyais des copains Paris intramuros. Et du coup, il y avait une sorte de totale dichotomie entre ces deux univers, mais qui m'a probablement fortement forgée à l'ouverture parce que mon voisin en Normandie, il parlait patois. Je le comprenais à peine et c'était vraiment la culture de la Normandie très
à l'époque, hein, il y a un peu plus de 30 ans, très très ouverte, très on passait chez les gens et la culture parisienne où on était enfermé dans des appartements. Donc ça m'a donné ce goût des deux en fait.
Ouais. Et quel type de petite fille tu étais ?
J'ai du mal à le savoir. Je suis fille unique déjà, donc je pense que ça joue dans le fait de travailler son imaginaire en permanence. J'étais probablement une petite fille résiliente aussi parce que je crois que je me plaignais pas franchement, parce que j'étais plutôt adaptable, peut-être trop adaptable d'ailleurs.
Pourquoi ?
Parce que quand on s'adapte, on s'exprime un peu moins. En fait, je m'en suis rendu compte a posteriori. J'ai une forme de résilience qui est très naturelle en me disant c'est la vie en fait. Tout était la vie et puis je crois que je m'exprimais pas trop quand j'étais gamine. Ça s'est vu dans mes études ensuite. Mais bon, on m'emmenait en Normandie, j'étais en Normandie. On m'emmenait à Paris et je crois que j'ai jamais demandé à être à l'un ou à l'autre endroit en disant non, je préfère être là. Non, c'était comme ça. Et par contre, à Paris, comme enfant unique, entouré toujours de plein de copains, ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Ma maison, c'est vraiment l'auberge espagnole depuis 20 ans, quoi.
Et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves ?
J'en avais pas jusqu'à l'adolescence. J'en avais pas. Je crois que je m'étais créé un grand monde imaginaire. Je crois que j'avais beaucoup. Je jouais. J'étais joueuse. Je dessinais. J'écoutais Claude François et Michel Sardou. Mais j'avais aucun rêve, j'avais aucune passion. Et d'ailleurs, cette notion de rêve et de passion m'a beaucoup travaillée. Alors, je faisais plein de choses, en fait. Je jouais du piano, je faisais plein d'activités en parallèle. Mais, j'avais aucun rêve, en fait. Et aucune passion fixe.
Comment ça s'est passé, du coup? Comment ça s'est éveillé? Tu disais qu'à l'adolescence, ça avait commencé à germer.
J'ai toujours un peu honte de raconter l'histoire. En fait, quand j'étais ado, je suis tombée raide dingue d'un groupe de musique. Ah, tu vois. Mais vraiment raide dingue de ce groupe de musique qui était inconnu en France, connu en allemand. Alors tout d'un coup, je me suis mise à bien parler allemand. C'était à peu près en cinquième. Donc j'ai commencé à parler correctement l'allemand et l'anglais. Et mes parents étaient effondrés. C'était au démarrage de l'Internet de voir leur fille boutonneuse devant un ordinateur dans un monde encore virtuel, parce que quand un groupe n'est pas connu en France, tu te fais des copains dans le monde entier sauf en France. Je m'étais amusée à coder un site web, on n'avait pas du WordPress, vraiment à la mano, tant j'étais fan de ce groupe de musique. Et finalement, vraiment pareil, je m'emmerdais un peu en cours, donc c'était vraiment un univers parallèle. Et j'en parle souvent parce que c'est très important de comprendre que quand on vit dans une communauté parallèle, une communauté se réorganise. C'est-à-dire que quand on est fan d'un groupe de musique ou quand on est fan d'Harry Potter ou quoi que ce soit, il y a ceux qui écrivent les fanfictions, il y a ceux qui sont copains avec les managers, il y a ceux qui créent les sites web, il y a ceux qui vendent les photos. Il y a en fait exactement la même société qui se crée en parallèle, et ça, personne ne l'a jamais étudié comme concept. Par contre, très vite, j'ai compris que des communautés parallèles pouvaient exister autour d'une cause, et ça m'a vraiment servi quand j'ai lancé mon projet après, et ça a été pour moi un des points de départ en fait de mon histoire, de se dire en fait on peut créer tout ce qu'on veut à partir du moment où on a une cause. Et à l'adolescence, j'avais la cause de mon âge, en l'occurrence. Mais comme le hasard a fait que je les ai rencontrés, en plus, ce groupe de musique par hasard dans le sud de la France, enfin, un truc incroyable, ils sont devenus potes. Très vite, je me suis dit, en fait, on peut tout faire dans la vie.
Et ça, t'avais quel âge quand tu les as rencontrés?
Alors, j'avais 21 ans quand je les ai rencontrés, et quand j'ai commencé à en être fan, entre guillemets, j'avais 15 ans, et c'était très marrant parce que le jour où je les ai rencontrés, en fait, je me suis dit, aucun intérêt. En fait, ce qui avait été marrant, tu vois, très souvent, on parle du chemin, du parcours qui est intéressant. Le jour où je les ai rencontrés, je me suis dit, oh merde, ils sont que ça. En fait, ils étaient petits, ils étaient déformés parce qu'à la télé, ça leur donnait une aura. Puis je les ai pas trouvés incroyables. En fait, c'était juste des gens. Et en fait, j'ai perdu mon amusement de ce projet mais l'avantage de ce projet, c'est que, tout d'un coup, quand tu vas à des concerts à l'étranger, j'étais hébergée tantôt par des riches Suisses parce que c'est un concert en Suisse, et après par des punks en Pologne en fait. Et ça, c'était marrant parce que autour d'une cause, tu as des personnalités qui sont hyper différentes, et j'ai toujours aimé en fait cette sorte. Je l'avais pas caractérisé à l'époque, mais j'ai toujours aimé cette sorte d'inclusivité en fait autour d'une cause où on s'en fout en fait
d'où tu viens, qui tu es, c'est pas.
Ouais. C'est ça. Mais c'est ça a été profondément formateur. Alors, à tous les parents, peut-être, qui écoutent ça, qui voient que leurs ados sont geeks en train de regarder un truc qui, pour eux, n'ont aucun intérêt, dites-vous bien que ça peut être complètement fondamental sur un parcours de vie parce que bah, je me suis rendu compte qu'on était capable d'aller au-delà de soi pour une transcendance. Alors, la transcendance de son âge. Hein. Mais ça m'a profondément servi.
Génial. Et au moment de choisir tes études, comment ça s'est passé?
Alors, c'est l'exact non-choix, en fait. C'est l'incarnation du non-choix. À la base, je me disais, alors je voulais être psy, mais à l'époque, on disait, non, être psy, c'est pas intéressant, il n'y a pas de débouché. Alors, je me dis là...
Psy, psychologue ou psychiatre?
Je ne savais pas encore la différence. Voilà, entre l'un et l'autre, à la base, c'était plutôt psychologue. Mais du coup, je m'étais dit donc psychiatre parce que c'est plus élégant. Hein. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse médecine. Puis, j'avais papoté avec quelqu'un qui avait fait médecine, qui m'avait expliqué qu'il fallait décortiquer des morts. Donc, je me suis dit, c'est hors de question. En fait, c'était pas pour moi. Je suis pas capable, en fait, de faire ça. Du coup, par défaut, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire pharma. En pharma, j'ai pas survécu parce que, pour moi, c'était complètement abscon, en l'occurrence. Et donc, très vite, je me suis orientée donc dans des sciences, en fait, en me disant, bon, ben, comme on veut pas que je fasse psy ou comme on veut pas que je fasse éco ou commerce, parce que c'était ce que je voulais dire. Mais moi, à l'époque, on me disait, ah non, ça, tu pourras toujours revenir. Faut d'abord commencer par faire des sciences.
Qu'est-ce qui disait ça?
Entourage, potes, famille, et en plus, comme dans ma famille, j'ai des très très littéraires qui ont fait du droit. Moi, par opposition, j'étais la scientifique. Je déteste les maths. J'étais en option maths, machin. Enfin, tu sais le truc qu'il faut faire en fait. Et tu sais pas il faut de qui il vient en fait. Mais il émane de tout le monde et de tout ton entourage. Enfin, tes potes et ta famille en fait. Parce que moi, j'étais dans un lycée parisien où il y avait Chaptal.
Ouais.
J'ai fait Condorcet et Chaptal, et du coup, où tu as 8 classes et demie de maths et une demi-classe de L et ES. Donc, autant te dire que t'as un biais cognitif déjà qui t'induit à te dire bah faut faire des maths. Hein. Donc voilà.
J'ai vécu la même chose où, en gros, on n'avait pas de L. Hein. Nous, c'était même pas accepté. Hein. Il n'y en avait pas dans l'école. Et clairement, on te faisait comprendre que t'étais un raté parce que tu faisais ES. Et tu te dis, mais mon Dieu, c'est...
Et ce qui était triste, parce que c'est que j'étais homogène en fait en seconde, j'étais homogène dans à peu près toutes les matières et j'adorais l'économique et sociale. Je trouvais ça incroyable. Je me rappelle un jour, il nous avait expliqué qu'on avait inventé les couches unisexes et puis tout d'un coup, pour le marketing, on avait fait les couches spéciales garçons et spéciales filles. Et quelques années après, on réinventait les couches unisexes. Je me rappelle de cet exemple en me disant « Ah, la puissance du marketing !» Et j'étais faite pour ça, en fait. En l'occurrence, je m'en étais bien rendu compte, mais c'était pas noble. Et donc, bah, quand t'as pas, comme je te parlais de résilience dans l'enfance, mais je l'avais encore dans l'adolescence, Tu suis le mouvement, quoi.
Tes parents, ils disaient quoi ? Excuse-moi. Ouais.
Alors, mes parents, mon père était ingénieur et avait fait finir ingénieur environnement chez Peugeot, en fait. Bon, maintenant, c'est PSA, hein, enfin, je sais plus.
On se comprend.
Acquisition, ouais. où on en est. Et ma mère, pareil, avait eu un parcours très littéraire. Elle avait fait du droit étant plus jeune et elle était dans une compagnie d'assurance à la base espagnole et puis française, enfin, Swiss Life. Et du coup, parcours très, très linéaire, mais pareil, de résilience, en fait. Très peu de changement, on évolue comme ça. Donc, je grandissais là-dedans. Et comme je n'étais pas la littéraire de la famille par opposition à ma cousine, donc j'étais fille unique, elle aussi, donc on avait grandi quand même beaucoup, beaucoup ensemble, bah, une littéraire, une scientifique, c'est marrant, quoi. Et donc, je me suis retrouvée en sciences, qui pour le coup, ça a été heureusement que j'ai fait des sciences, parce que donc j'ai fait de la physique-chimie. Pourquoi ça, je l'ai pas, hein, le pourquoi vraiment, je sais pas, je l'ai pas, parce que je suis là, ce que je dis très souvent, je suis la personne la plus maladroite. À côté du podcast, là, j'ai pas pris de verre d'eau parce que je sais que ça loupe pas, je renverse mon verre d'eau en fait. Si là, je joue avec les mains et faire de la paillasse, c'était, enfin, quand tu repenses a posteriori, c'était complètement abscon. Mais ben, la vie m'avait entraînée dans des paillasses de physique chimie, ce qui au demeurant a été intéressant parce que ensuite je me suis intéressée au développement durable. Sauf qu'à l'époque, c'était pas le concept bobo d'aujourd'hui, c'était pas le concept vachement en vogue. Je me rappelle de ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé dans le développement durable, mais à l'époque, il fallait avoir fait des sciences dures pour se lancer là-dedans. tu n'arrivais pas dans le développement durable par de l'éco, en fait. Tu vois, Dauphine n'avait pas encore lancé son cursus, les écoles de commerce non plus. Donc, t'arrivais vraiment par de la science dure. Et du coup, l'avantage, c'est que je suis capable de comprendre les phénomènes météorologiques, la pollution des monuments, pourquoi les monuments deviennent noirs quand il y a de la pollution de l'art. C'était, en fait, finalement, c'est cette science qui, bon, la paillasse, la blouse blanche l'hiver dans la paillasse, on regarde pas un souvenir phénoménal. Par contre, ça m'a donné deux empreintes très intéressantes de comprendre les principes de base. Et surtout, j'ai étudié la physique quantique parce que je faisais de la physique chimie. J'ai étudié la physique quantique qui, je pense, m'a ouvert en fait à une réflexion autre sur notre société.
Ouais. Et donc là, du coup, tu fais ces études-là. Ça rentre du coup dans les cases de ton entourage?
Alors pas du tout. Quand je me suis lancée dans l'environnement, on m'a dit que ça t'empêchait les entreprises d'avancer. En fait, globalement, c'était un truc de pays riches déjà qui empêchait les entreprises d'avancer. D'autant que mon père avait bossé, tu sais, avec les lois Seveso, enfin qui emmerde tout industriel. Hein, faut quand même le dire. Et donc personne ne comprenait ça. Vaguement peut-être mon meilleur pote qui était passionné par la photo d'animaux, tu vois. Alors, à la limite, lui, il comprenait vaguement. Mais ça, c'est ça que je trouve très intéressant dans la vie, c'est que toi, tu te sens un élément isolé. Sauf que quand tu rentres dans le master, tu rencontres d'autres gens qui sont comme toi. Ils sont là pour la même cause que toi, pour la même raison. Et tout d'un coup, ton univers rebascule. Bah, quand bien même tes potes se disent « qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? C'est quoi son sujet ?» Parce que le paradoxe là-dedans, c'est que j'étais même pas écolo. C'est-à-dire que j'ai pas été l'ado militante. J'avais pas spécialement la fibre green, en l'occurrence. J'étais pas végane, enfin, j'étais pas tout ça. Mais pour moi, c'était du bon sens. En fait, l'enjeu, je me disais « mais attendez, une entreprise, il faut qu'on la prenne dans son périmètre avec l'écologie, l'économie, les gens qui sont à l'intérieur. » Donc déjà, j'avais cette
conscience. Ouais.
Et c'était du bon sens, mais personne ne comprenait ce bon sens, vraiment personne. Et du coup, je ne le disais même pas, je ne l'énonçais même pas, en fait. C'était ça qui est intéressant, je trouve.
Comment tu le vivais, du coup, de ne pas pouvoir en parler?
Alors, très, très mal avant. Tu vois, la transition entre la chimie, parce que tout d'un coup, je me suis dit « non, je ne veux pas faire de la recherche, je sors ». Cette transition de cet été-là a été très difficile parce que personne ne se dit… Enfin, tout le monde questionnait mon choix, en fait, de ne pas continuer dans la voie pure chimie. En plus, j'étais super bonne, finalement, en troisième année, parce qu'il y avait de la quantique, du machin, ça me passionnait. Donc, ouais, j'étais plutôt super forte. Et donc, il y a eu ce choix. Cette transition a été compliquée, mais dès qu'on rentre dans un nouveau moule, et surtout quand tu as fait de la chimie physique pendant des années, tout d'un coup, tu vas dans des cours où tu écoutes et tu apprends. En fait, et tu n'as plus de lois mathématiques qui régissent. Tout d'un coup, on vient questionner. Et pour moi, c'était incroyable d'aller à ces cours de l'économie de l'environnement. Je trouvais ça tellement enrichissant que non, dès que je suis rentrée dans le master, je me suis dit « ok, tout va bien ».
Ouais, tu t'es sentie à ta place, du coup?
Ouais, à ma place, avec des gens comme moi. C'est couillon, mais c'était, voilà, des gens qui étaient eux aussi en questionnement parce que c'était pas à la mode, hein. Moi, c'était en 2005, ça. Donc, ça fait quand même 15 ans. Donc, il y a 15 ans, voilà, le Grenelle de l'environnement était pas passé. Mais, ensuite, et comme ma dernière année, c'était aussi en alternance, j'avais eu un stage qui était à l'ADEME. Et donc,
c'est quand même.
C'est l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement. C'est la structure qui a un EPIC qui dépend des ministères et qui va aller financer des projets pour améliorer les pratiques environnementales des industries, des PME. Donc c'est il y a de l'argent et il y a du conseil, en fait.
D'accord.
Donc c'est une super structure qui permet d'avoir une vision globale d'un sujet.
Et donc là, t'as fait ton stage, tu t'es fait embaucher là-bas après ?
Non, parce que j'étais à Marseille, c'était à l'ADEME PACA, et je voulais rentrer à Paris. Mais par contre, avoir une vision générale, comme j'avais perdu un an en pharma, donc j'avais un an de retard sur mes copains, en l'occurrence. Parce qu'en pharma, du coup, c'était l'année où j'avais rencontré mon groupe préféré, donc autant te dire, j'en avais rien eu à foutre de ce que j'avais fait. Je me perds peut-être un peu dans les dates, mais ça, il y avait de la concomitance. Je passais beaucoup de temps en Allemagne parce que j'étais pote avec eux, parce que je les avais rencontrés avant. Et tout ça pour dire que j'avais un an de retard sur mes potes et je voyais des copains qui bossaient chez Danone et dans plein de grands groupes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont, vision biaisée. En fait, ils étaient devenus corporate en un an. un an leur avait suffi à m'expliquer que leur boîte était la meilleure du monde. Et des gens qui, ben, globalement, pour moi, étaient quand même bien câblés, qui avaient normalement du recul, une éducation. Il avait suffi d'un an à plusieurs, en fait, pour ne presque vomir un discours corporate. Et je m'étais dit, jamais je veux bosser dans un groupe pour n'avoir qu'une vision des choses. Parce que très vite, tu t'enfermes. Et ça, j'avais compris ça aussi à l'époque. Et donc, j'ai voulu bosser dans un réseau et j'ai été embauchée par Pierre Reboul, que tu connais, qui m'avait dit, tu vas créer le premier réseau des directeurs du développement durable en France. Et c'était très drôle parce que dans l'annonce, il avait marqué « Je cherche quelqu'un avec de l'humour ». Et j'avais répondu « Alors moi, j'ai souvent de l'humour, mais c'est malgré moi. » Ça fait rire les autres parce que j'étais maladroite. Et ça a matché. Donc, j'ai commencé avec une feuille blanche. Hein. Tout à l'heure, on parlait l'écriture, et donc il y avait un narratif déjà dans la construction de ce projet qui a duré, du coup j'ai bossé 7 ans, 8 ans là-bas, pour créer le premier réseau des directeurs du développement durable avec une feuille blanche, et ça a été en France, aux États-Unis.
Et déjà la création de communauté du coup.
Il y a toujours eu cet aspect pour moi communautaire, fédératrice autour d'une cause en l'occurrence. Rencontre qui était là, alors que je suis plutôt une hyper timide de nature. Donc, pour moi, ce que je dis très souvent, il y a un gros paradoxe. Hein. Tu me mets dans un événement où il y a du monde, tu es certaine que je suis la personne qui rase le mur, qui va parler avec le barman pour se donner une contenance parce qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait. Donc, j'ai un côté hyper sensible, hyper timide. Et pourtant, j'ai toujours bossé dans cette notion de création de communauté parce que j'ai... Alors pareil, hein, je mettais pas les mots, mais j'ai toujours cru dans l'intelligence collective quand on avait fondé ce réseau du développement durable. Alors, ils nous avaient embauchés, moi et Nina, qui est devenue une de mes meilleures potes. T'imagines, il met ça dans la main de deux nanas de 23 ans en leur disant « Allez, faites-le !» On a juste eu… Enfin, voilà. Hein. Bon, faites-le. Voilà, vous faites comme vous faites. Voilà, Donc, c'était hyper intéressant parce que je me retrouvais à appeler des mecs de chez Air Liquide en leur disant, bon, alors, je sais pas trop ce que Air Liquide fait. Est-ce que vous pourriez comprendre? Est-ce que vous pourriez venir l'expliquer pour nous expliquer comment vous allez améliorer vos pratiques environnementales? Et j'ai fait ça avec tous les acteurs en leur expliquant qu'on avait l'idée qu'il fallait, en fait, aujourd'hui, on parle d'intelligence collective, mais à l'époque, c'était pas ça. C'était dire, nous, on a envie de faire en sorte que des gens partagent des retours d'expérience parce que vous pouvez vous sentir isolé dans vos pratiques en interne. Donc, il y a toujours eu effectivement une trame de cet isolement peut-être que j'avais vécu avec mon groupe de musique quand j'étais enfant, et de communauté, en fait, de soutien.
Et quand tu as commencé ce job, comment ça a été perçu par ton entourage?
Alors déjà, tout le monde pensait que j'allais pas l'avoir, parce que comme mon boss avait monté une autre entreprise qui était quand même assez connue, qui était du réseau, tout le monde s'était dit il va embaucher quelqu'un. Ça avait l'air trop beau sur le papier comme job. Hein. Tout le monde s'était dit, autour de moi, tu vas pas l'avoir, c'est sûr qu'ils vont embaucher quelqu'un qui a du réseau, etc., etc. Puis et quand j'ai commencé, sincèrement, au démarrage, tu te poses des questions hein, quand t'as quelqu'un qui te donne aucune directive, qui te dit vas-y, vous faites. Tu vois, c'était pendant 6 mois, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais finalement, comme on était deux avec Nina et comme on rencontrait plein de gens, comme on était les premiers à faire ça, enfin, il y avait pas le C3D à l'époque, le club des directeurs du développement durable, il y avait pas tout ça. Et on était juste les premiers à essayer de faire, et tous ceux qui avaient essayé de faire de leur côté, ils se disaient c'est plutôt cool que quelqu'un le fasse, donc on va y aller. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois, t'es quand même dans une sorte d'hésitation parce que t'as jamais géré. Moi, je venais de la chimie, du développement durable, donc j'étais vraiment le. Et puis en plus, on se moquait de moi en interne. C'est-à-dire qu'avec Nina avec Nina et Pierre. Je sais pas si tu connais Martin Tissier, qui est un de mes anciens collègues, non? Qui disait, il se moquait de nous parce qu'il parlait de piles photovoltaïques. En fait, tu sais, on était le truc pas rentable en plus à l'époque, donc
c'était un peu l'ovni.
On était les ovnis de la boîte, qu'on imaginait un peu utopiste et autres, mais punaise, on était juste vachement en avance, hein, c'était ça. Mais ce soutien d'être deux en fait pour faire ça, tu sais, on tenait bon, et puis on a eu tellement d'aventures, tu vois, avec Nina. Elle a déménagé, elle habite à Tahiti, je suis allée la voir cet été. Et on se disait, mais oh là là, mais comment est-ce qu'on a fait, tu vois? Comment on se pose la question encore, comment est-ce qu'on a fait, en fait? Comment les gens nous ont fait confiance?
Ouais, mais souvent le talent, justement, il y a un truc. Parfois, quand on a du talent, on se dit, mais comment on a réussi? Mais il y a un truc qui est plus fort que nous, en fait.
Ouais, et la cause, en fait. Je crois, moi, vraiment, j'étais ancrée sur mon positionnement que le développement durable, c'était pas un truc pastiche, en fait. C'était pour moi une condition sine qua non à la pérennité de notre société, en fait. C'était du pur bon sens. Et c'était tellement vrai dans mon intention, ça l'est encore, mais c'est la même chose que la qualité de vie des salariés. Pour moi, c'est des conditions sine qua non. Sinon, les modèles, ils vont péter. Donc, j'en étais tellement convaincue, je pense, à l'époque, que ceux qui en étaient aussi convaincus et qui avaient jamais trouvé de zone d'expression se sont dit, oh, bah, tiens, on n'est pas les seuls. Et elles sont, voilà, on avait aussi probablement la jeunesse pour nous, allez, ça va être enthousiasmant, ça va pas être juste parce que le développement durable à l'époque, soit c'était vraiment très stratégique dans l'entreprise, genre un conseiller au président qu'il faisait, soit c'était le stagiaire, soit c'était le placardé, en fait. Il y avait une totale hégémonie, mais c'était généralement quand même des gens assez incroyables qui avaient compris, en fait, qui avaient pas eux-mêmes une vision, mais qui n'avait pas été partagée par l'ensemble de leurs entreprises à l'époque.
Et comment ça s'est passé, du coup, quand t'es partie de cette entreprise? Pourquoi t'es partie?
Alors, je suis partie deux fois, déjà. En fait, pardon, je vais peut-être remonter un peu. J'ai vécu, donc, pour le développement de cette entreprise, j'ai vécu à New York, j'ai voyagé à San Francisco beaucoup, donc, et là-bas, bah, quand on est à l'étranger, on vient chercher l'information française. Et là-bas, je me disais, c'est incroyable. Moi, mon pays, je le trouvais incroyable. Et quand je regardais l'actualité, et tu le vois d'autant plus que tu es à l'étranger, je me disais, on a l'impression que c'est le pire pays au monde, en fait. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et depuis longtemps, j'avais la notion d'enthousiasme en tête. Je me disais, c'est bizarre. Plus personne ne s'enthousiasme de rien. Et dans le développement durable, il y avait beaucoup, beaucoup de critiques, mais il y avait beaucoup pour moi d'enthousiasme en parallèle, d'acteurs qui s'engageaient. Et bah, en France, vu que bah, le système n'était pas parfait, on leur disait, non, on va pas en parler parce que c'est pas parfait, mais on oubliait cette notion d'enthousiasme de celui qui agit pour le sens commun, pour le bien commun. Et donc, on le taisait. Donc, j'avais depuis 2012 l'idée de créer un média positif en me disant, il faut valoriser, il faut pas que le développement durable parle au développement durable, il faut rendre le truc vachement chouette comme moi je le voyais. Je rencontrais des gens incroyables au quotidien. Et donc, j'avais cette idée de créer un média positif. T'as toujours des bonnes raisons de rester. Voilà. Alors, que ce soit ton mec, que ce soit parce que tu dois repartir aux US et c'est quand même cool de vivre à New York et de bosser dans l'Upper East Side et de bosser sur la 5e avenue, quoi. Donc, tu trouves toujours un prétexte pour retarder. Par contre, et puis j'étais persuadée que qu'un grand groupe allait créer un truc positif, en fait. Je me disais, c'est tellement, un peu comme le développement durable, c'est tellement logique, en fait.
C'est tellement évident qu'en fait, c'est pourquoi personne ne l'a jamais fait, quoi.
C'était ça. Ça va arriver. Donc, j'étais persuadée que TF1, M6, France TV, que n'importe qui allait le faire. Si l'idée m'était venue, elle était forcément montée à la tête des spécialistes, en fait. Et puis, je voyais que ça venait pas et je commençais de plus en plus à râler en me disant, je veux le faire. Et puis, cette peur qui te prend encore en disant, mais attends, meuf, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, tu vois? Enfin, je veux dire, tu sais pas, t'as pas étudié du commerce, donc tu ne sais pas monter une entreprise. La comptabilité, t'es dyslexique des chiffres quasiment. Y a rien qui te saoule plus que l'engagement. Qu'est-ce que tu vas monter ça? Donc je reportais, et puis un jour, ça je le raconte dans mon premier livre. Et c'est terrible, mais ça montre à quel point de temps en temps c'est un truc qui tombe au moment qui fait que ta vie va basculer. C'était un jour, je me rappelle très bien, de janvier. J'étais en train de zoner, tu vois, tu sors pas dehors, il fait froid, tu vois, c'est une journée bien gris parisien. Je vais sur Facebook et là, je tombe sur à l'époque, tout le monde était sur Facebook. Il y a un copain qui partage une sorte de dessin dégueulasse, tu sais, hyper pixelisé, qui avait dû être partagé. Et là, sur les dessins, il y a marqué, si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Écoute, je sais pas, là, et là, pourquoi ce jour-là, je m'étais pas levée avec ça? Je sais pas. J'ai dit à mon boss, Pierre, faut que je te parle. J'ai trop cette idée, mais je l'avais déjà dit, cette idée à tout le monde, Je l'avais déjà dit. J'avais envie aussi de partir en Espagne, de faire un break parce que, voilà, je suis une hyper en permanence. Donc, au bout de 7 ans dans une boîte, t'as beaucoup donné et j'arrivais pas à monter mon projet en parallèle aussi parce que mon sujet de base me passionnait. Donc souvent on te dit pour monter, bah tente de le faire en parallèle, mais moi je suis une passionnée, le développement durable encore aujourd'hui ça me passionne, donc j'arrivais pas à scinder mes énergies en deux.
Je fais une petite parenthèse. Je pense que c'est un vrai sujet, tu vois, par rapport aux gens qui veulent changer de métier. Là, je viens de sortir mon premier livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier ?» Et justement, c'est ce que je dis aux gens, c'est que il y a des gens qui vont avoir le caractère de pouvoir faire les deux. Je pense typiquement à Clémentine Gallet qui a monté Bliss en parallèle de TF1. Mais tu as des gens qui sont trop entiers, qui n'arrivent pas à faire les deux. Donc, c'est vraiment à chacun de voir comment ils arrivent à vivre le truc, mais...
Et de déculpabiliser si on n'arrive pas à le faire en parallèle.
Bien sûr.
Parce que de temps en temps, tu as deux métiers qui se concordent. Tu vois, Bliss et TF1, ça peut aller. Le développement durable et l'optimisme. Moi, au développement durable, j'aimerais quand même le dire, j'étais que avec des collapsologues. C'est-à-dire qu'à la fin, mon entourage, mon univers, c'était... Donc, les collapsologues, c'est ceux qui sont persuadés que le monde va s'effondrer, horizon 2030 à peu près. Mes copains, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'on a commencé très tôt dans le développement durable, parce qu'on a vu que les choses se sont pas améliorées. Et du coup, c'était vraiment deux trucs très antinomique, et comme tout le monde se moquait de mon idée d'optimisme, en plus, ben, ça me freinait. Donc, surtout à tous ceux qui écoutent et qui se disent, mais moi, j'arrive pas à le faire, donc ça veut dire qu'après, je n'arrive pas à le faire. Non, pas du tout. Ça veut dire que vous êtes entier, que on parlait de l'entourage tout à l'heure, que votre entourage, moi, mes collègues, je te garantis, qu'ils ne comprenaient pas. Quand je leur parlais d'optimisme, c'était un peu de la naïveté. Et j'aime bien le dire aujourd'hui parce que j'ai un de mes collègues qui m'a, donc, peut-être que tu le connais, Guillaume Bert. J'ai un de mes anciens collègues que j'adore, c'est un de mes super potes, hein, qui m'a dit récemment qu'il y a 5 ans, quand j'ai lancé l'optimisme, il me disait j'aurais pas mis un centime dans ta boîte, je comprenais pas ce que tu faisais, machin. Et il me dit maintenant je comprends. Donc il y a aussi ça par rapport à l'entourage et finalement quand t'es précurseur, tu sais que souvent c'est ça qui se passe et tu sais qu'on est tous emprunt à des bulles. Donc moi mes collègues qui étaient vraiment dans le market et dans la com, ils avaient une bulle com que moi je comprenais pas en fait, pas forcément. Et ça a été comme ça. Mais donc je n'arrivais pas à faire les deux. Et donc cette citation, j'ai dit à Pierre, écoute, je pense qu'il faut que j'y aille. Et puis j'adorais en fait. Le pire c'est que j'étais dans une entreprise qui m'avait, enfin comme personne, j'étais bien payée, respectée sur un sujet que j'aimais. Enfin le vrai meilleur en soi en fait. Mais le meilleur en soi c'est pas forcément le meilleur pour soi. Et la pire cuite que je me suis pris de ma vie, c'est mon soir de départ de cette entreprise. Je veux dire, j'étais malheureuse comme c'est pas permis. Je quittais à la fois mes potes, ce qui m'avait donné ma chance. Je veux dire, quelle chance j'avais pu être que d'être embauchée sur un sujet, de l'avoir fait grandir, d'avoir voyagé avec des gens qui étaient incroyablement compétents, mais j'avais cette sorte de flamme qui me disait c'est pas là où je suis la plus utile. J'étais utile, mais c'était pas là, je sentais que c'était pas là où j'étais la plus utile.
Ta petite voix ?
La petite voix, en fait, c'était une sorte d'intuition non opposable. C'était que je le savais, en fait. Alors que quand tu regardes aujourd'hui, mais c'était complètement ubuesque de penser que j'allais toute seule monter un média, tu vois. Enfin, certes, j'avais créé un site web quand j'étais ado. Je comprenais le concept de diffusion, mais tu vois, à l'intérieur de mon ancienne entreprise, je savais que j'étais bonne en com et en marketing, mais j'avais jamais osé le proposer, même en interne, en me disant j'ai pas le diplôme. J'ai pas étudié ça, mais finalement, si on avait réussi aussi à monter cette entreprise des directeurs du développement durable, c'est qu'on savait le parler, on savait l'écrire, on savait le communiquer, et tout ça, j'avais pas compris que j'avais gagné des compétences qui étaient bien, bien, bien différentes de savoir expliquer une équation mathématique sur la pollution de l'air.
Je pense que c'est un vrai sujet ce que tu dis par rapport à « je n'ai pas de diplôme ». En France, c'est quelque chose qui est très important, ça rassure. Et puis, en tant que femme, on a encore plus ce côté-là du syndrome de l'imposteur. Toi, du coup, t'as pas de diplôme, à ce que je sache, en psychologie positive ou autre. Est-ce que ça a été un moment où tu t'es posé des questions ou c'était tellement évident qu'en fait, il n'y avait pas de questions ?
Oui, alors déjà, c'est pour ça que j'ai pas parlé de bonheur, c'est pour ça que j'ai pas parlé de psychologie positive et c'est pour ça que j'ai parlé d'optimisme. En me disant, en fait, l'optimisme, c'est quelque chose d'action, c'est une posture mentale, en fait, qui ne vient pas se théoriser. Alors après, j'ai beaucoup lu et en fait, très vite, j'ai compris que je voulais surtout pas être la sachante parce que je m'emmerde, en fait, au bout d'un moment, que je voulais être la curieuse. Et finalement, ça m'allait bien, ce rôle, en me disant, je vais créer un média qui va me permettre d'aller comprendre, en fait, ce que c'est que la psychologie positive, par exemple, et d'aller continuer à enrichir, en fait, mon disque dur par ceux qui sont les sachants et les experts. Et ces sachants patients et ces experts, généralement, ils savent pas se mettre en avant. C'est la même chose qu'en fait, un musicien, il est bon en musique, il est pas bon à expliquer la musique, en l'occurrence. Et moi, je m'étais dit, j'ai quand même une force qui est celle de savoir parler autour d'une cause. L'optimiste était devenu ma cause parce que je me disais, mais si on ne bouge pas les fesses, comme j'avais gravité dans le monde de l'EBG, puis après, bon, je suis revenue pendant 3-4 mois à l'EBG, donc à la société sœur de la société dans laquelle j'avais travaillé, avec le même patron, pour aller regarder justement tout ce qui se faisait en termes de marketing, de communication. Mais comme c'était l'univers qui était le bureau d'à côté, je comprenais quand même assez bien, mais j'ai voulu remettre un peu la main à la pâte. Et je me disais, en fait, on est presque sur deux sujets antinomiques. C'est-à-dire que dans un sens, c'est consommons plus à tout prix. Et puis, on va te dire que c'est ça qui fait qu'on est optimiste. Hein. Puis, de l'autre côté, tu avais le développement durable. Je me suis dit, mais on est dans une société presque quasi schizophrène à ce stade-là. Hein, parce que tu as ceux qui disent, attention, si on consomme trop, tout va s'effondrer. Et les autres qui disent, consommer plus, ça fait marcher l'économie. Puis, à un moment donné, je me suis dit...
Ça vous rendra heureux.
Et ça vous rendra heureux, en fait. Et surtout, mais attendez, le bonheur n'est pas dans un acte d'achat futile. Ça vient te donner une décharge de molécules, mais qui ne sont pas pérennes, en fait. Un truc, tu le consommes un peu comme une addiction. Et je me disais, en fait, la société à revoir. Il fallait qu'en fait, comme j'avais compris aussi très vite que et j'étais revenue dans la société vraiment sur le market et la com pour me dire pourquoi les gens comprennent pas l'enjeu du développement durable. Et c'est pour ça que j'ai réétudié tout ce qui était communication, market, tu vois, biais cognitifs et tout ça qui était redevenu, pourquoi la pub en fait. Et donc j'ai réétudié tout ça et là j'ai compris en fait que fallait tout lâcher si on voulait vraiment faire des progrès en développement durable, il fallait passer à l'échelon supérieur, presque la souveraineté de l'individu qui se questionne, qui se pose des questions sur la société dans laquelle il vit, qui se rappelle qu'il est puissant en fait, qu'il n'est pas un robot, qu'il n'est pas un automate. Et c'est pour ça que je l'ai passé au maillon média en me disant en fait il faut revoir le système, le développement durable dans son coin, ça changera rien en fait. Et j'étais très pessimiste des systèmes mais très optimiste des gens en fait. Ouais. Et donc c'est pour ça que je suis revenue à ce maillon.
Et donc là à ce moment-là t'as pu avoir le chômage?
Ouais, j'ai pu avoir. En fait, du coup, j'ai pu avoir commencé. Donc, j'ai eu une rupture conventionnelle. Déjà, on va commencer par ça. Et j'ai pu avoir donc le chômage quand tu crées une entreprise. Alors là, en ce moment, ça s'appelle l'ACRE. Enfin, moi, ça s'appelait l'ACRE à l'époque. Ça a peut-être changé de nom depuis. Ça changera sûrement de nom. Dans l'entrepreneuriat, on a pour habitude, je sais pas si vous l'avez déjà dit dans votre podcast, de dire que c'est le meilleur fonds d'investissement en France. Hein. Franchement, ça.
Et Stéphane Soulier qui le disait.
Ah, qui le dit. Bah ouais. C'est ça. Voilà, ça. C'est la blague entre entrepreneurs, tu vois. C'est vraiment ce qui te donne une sorte de liberté de penser et de créer. Et je me rappelle, et ça, c'était, on parlait du poids de l'entourage, et je me rappelle que, par exemple, mes parents et mes potes me disaient, non, mais le chômage, Catherine, c'est pas pour toi. C'est pas fait pour les gens comme toi. Regarde, tu as des capacités, c'est pas normal que ce soit Pôle emploi qui te finance. Et j'avais une grosse culpabilité, vraiment à toucher le chômage, j'avais une énorme culpabilité, mais je me disais mais attendez, c'est parce que demain je crée une valeur ajoutée et c'est juste qu'en France, on ne valorise que la valeur travail. Tu fais quelque chose, alors on va te donner du pognon. Bah ouais, mais attends, le simple fait d'être sympa avec ta voisine, ça a pas de valeur ça? Le fait de t'engager dans un monde associatif bénévolement, ça a pas de valeur. En fait, on croit que la valeur financière ne vient que d'une création matérielle d'un bien et d'une productivité. Et moi, je leur disais, mais attendez, je fais quand même un truc qui est presque pour le bien commun à ce stade-là. Le nombre de très rapidement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient, ah, ça me fait du bien. Et je leur dis, ça a pas de valeur ça pour vous. Et surtout, après, je savais qu'un jour, j'ai maintenant 5 ans plus tard, vu le pognon que je file à l'État en tant qu'entreprise sur les charges de mes salaires, j'ai aucun complexe à avoir eu le chômage pendant cette période parce que ça m'a permis d'aboutir à mon projet. Mais voilà, pour ceux qui écoutent, qui ont peut-être envie de passer à l'action, c'est très violent parce qu'en plus, vous pensez que les autres, ils ont raison parce que c'est vrai. On pourrait retrouver probablement parfois plus facilement un taf que d'autres, tout simplement parce qu'on a une expérience professionnelle. Mais en fait, cette période, elle est nécessaire. Il faut la savourer quand on l'a, parce que quand on re-rentre dans le nerf de la guerre, payer des impôts, des salaires, des taxes, des machins, on fait un peu moins les malins.
Ouais. Et puis qu'après, t'as plus le droit au chômage quand t'es entrepreneur.
Non, t'as plus le droit au chômage. Et mais j'ai bien payé l'État hein, depuis.
Ouais. Hein, enfin. bah, de toute façon, en même temps, t'avais aussi cotisé pour ça, accessoirement. Oui. Et quand t'as lancé l'optimisme, c'était quoi l'idée de base par rapport à ce que
c'était celle d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'était juste que j'avais eu un vrai biais d'optimisme dans la temporalité. C'est-à-dire que mon enjeu, c'était vraiment de créer un média qui mette en avant les initiatives positives dans la société et dans tous les domaines. Parce que pour que le monde change, il faut que l'éducation bouge, il faut que le monde du travail bouge, il faut que les sujets développement durable soient mieux compris. Il faut que les gens, en termes de parcours personnel, de développement personnel, se sachent capables de faire évoluer les choses. Je voulais vraiment un esprit aussi entre guillemets communautaire aidant, soutien en fait, pour que chacun ait envie d'y aller. Et j'avais très vite compris aussi qu'il fallait que le monde du travail bouge. Donc j'avais pas pensé que j'allais créer en parallèle un réseau de ceux qui s'engagent en matière de qualité de vie au travail, de bien-être des collaborateurs, mais je l'avais déjà en tête vu que j'avais déjà créé un réseau en matière de développement durable. Et j'avais proposé, j'aimerais quand même le dire, à mon ancienne boîte, est-ce que vous voulez pas que je vous crée le même réseau en matière de QVT? Je s'en fous de la QVT, tu vois. Enfin, c'était presque ça, même si pourtant c'était abordé dans des sous-sujets ailleurs et que finalement ils l'ont aussi abordé dans des commissions. Mais alors je sais plus quelle était la question.
C'est à savoir la différence entre l'idée de base et aujourd'hui.
Non, alors et pareil, je me disais, on pourrait se financer. Je réfléchissais déjà à un modèle économique qui évite de faire de la pub, en fait. Qui
ouais, évite à faire. Ça allait être ma question de comment, quel était le business
exactement,
model.
Exactement, mais très rapidement, pour avoir passé du temps dans la pub, dans la com, dans le machin, je savais que je voulais pas me biaiser parce que j'avais compris très vite que dès que tu as un flux financier qui vient d'un nombre de clics, de vues sur un média, eh ben t'es complètement biaisé. Mmh. Tu vas chercher la vue, tu sais très bien ce qui marche, hein, c'est des petits chatons pour faire la vue ou ce qui vient jouer sur notre système primaire, hein, le mec qui a coupé la jambe de sa femme dans le Larzac parce que ça vient jouer sur le fait que un peu voyeur et puis c'est un danger potentiel pour nous.
Ce qu'on appelle vulgairement des putaclics, quoi.
Exactement.
Dans le
exactement. Qui sont que je sais faire en fait. Il suffit de tu mets un mec qui a coupé la jambe de sa femme très rapidement, ben ça vient jouer sur ton côté voyeur, ton côté il y a pire ailleurs tant mieux, et ton côté c'est un danger potentiel. Alors moi en tant que mammifère, je vais cliquer dessus. Je veux dire, parce que si je me contrôle pas, je vais cliquer dessus et puis je vais le partager. Et puis après, on va engueuler les médias, parce que moi, j'engueulais les médias. Hein. Je leur disais, mais c'est pas possible que vous nous proposiez ça. Ils nous disaient, mais c'est pas de notre faute. Il y a des annonceurs et c'est les articles sur lesquels on clique le plus, en fait. Donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je trouve un autre modèle économique. J'ai très vite compris aussi que, parce que moi, j'étais très mal à l'aise, en fait, avec l'argent. J'avais jamais été commerciale. Je suis la pire vendeuse au monde. Hein. Si tu me proposes de m'acheter un truc, généralement, au bout de 5 minutes, je vais dire, tu le veux pas gratuit? Vraiment, et puis, j'avais déjà l'impression de faire ce que j'aimais. Donc, c'était très difficile. Et ça, je le dis pour tous ceux qui veulent devenir, je sais pas, artistes, machin. Vous avez l'impression de faire ce que vous voulez. Et en plus, vous allez demander du pognon aux gens pour le faire. Mais en fait, le problème, c'est que si t'as pas de flux financier, t'arrives pas à recruter des gens pour t'aider qui, finalement, participent à l'économie, participent aussi à les faire grandir. Voilà. Etc. Etc. Et donc, j'ai cherché très rapidement un modèle économique. J'avais beaucoup aimé celui de mon ancienne entreprise où finalement, les gens adhéraient pour venir à l'année à des événements. Donc, ce que j'ai très vite reproduit, et puis avec d'autres mécaniques aujourd'hui qui nous permettent de rester absolument indépendants. Donc, je dis qu'on est un média, mais on n'est même pas catégorisé comme un média, parce que quand tu es catégorisé comme un média, tu dois rendre des comptes. Hein. Moi, je veux rester un site.
Libre.
Voilà, être libre. Et donc j'ai ce premier flux économique. Alors aujourd'hui, je donne beaucoup de conférences dans le monde de l'entreprise parce que, comme au démarrage, quand j'ai bossé dans le développement durable, tout le monde se disait « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et puis comme ça faisait trois fois que j'avais des coups d'avance, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à parler d'optimisme, les mecs, ils ont regardé en se disant « bon, ça fait trois fois qu'on se moque de ces délires ». Parce que quand j'avais rebossé dans le digital, à un moment donné, les gens, je me rappelle de Marc qui me disait « nous, on vendra jamais en ligne, on fait du luxe ». Le luxe est antinomique avec vendra tout le monde. Enfin, bref.
Et comme... C'est fou de voir l'évolution. Je me rappelle à un événement, je discutais avec quelqu'un qui bossait chez Chanel, mais vraiment quelqu'un qui était très, très haut élevé dans les rangs de Chanel, qui me dit, non, mais nous, jamais on ne daignera répondre sur les réseaux sociaux ou un média spécialisé, dans l'univers de la relation client et tout. Et le CEO qui m'explique, non, mais la vidéo, c'est pas pour nous. Et moi, j'essayais de lui vendre un projet commun et tout. Et quand tu vois, tu te dis, mais Ouais.
C'est ça. Et c'est pour ça que l'avantage de toujours cette sentie, l'outsider, tu vois, de savoir que finalement, ce que tu as raconté il y a cinq ans plus tard, les gens comprennent. En fait, ça m'a fait ça avec le développement durable, ça m'a fait ça avec le digital, ça me fait ça aujourd'hui avec la QVT et l'optimisme d'un point de vue global. Je suis très à l'aise maintenant, je suis surtout de convaincre personne. Hein. Mais ça m'a vraiment... Voilà, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, en fait, d'avoir peut-être cette prospective un peu et cette notion de liberté d'indépendance. Donc, je fais des conférences, j'ai trois livres, là, j'ai le quatrième qui sort. Dernier levier, c'est qu'on a créé une boutique en se disant, bah, on va créer des produits positifs, en fait. Et au démarrage, on se disait que c'était complètement anecdotique. Sauf que, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier confinement? Tout d'un coup, bah, moi, toutes mes conférences, bah, il y en avait plus, en fait. Alors maintenant, j'en ai beaucoup, enfin à la fin de l'année j'en ai eu mais tellement en digital, mais ce que je veux dire c'est que pendant le confinement on s'est dit bah, on va tout faire gratuit, on met à plat notre business model, tout était gratuit parce qu'on se disait on participe à notre contemporanéité, les gens ont besoin d'optimisme, enfin, on a fait des scores de dingue pendant le confinement, gratos en fait, en plus moi j'avais un bout de l'équipe qui était en chômage partiel, qui bossait pas, donc voilà, ça a été éprouvant, voilà, pour les quelques jours où on t'a fait, on a vraiment speedé, mais en parallèle, la petite boutique nous a généré du flux financier, donc c'est pour ça, les business models, ce business modèle, tout le monde s'en moquait, vraiment, parce que moi quand je suis arrivée auprès de mon comptable en lui disant je veux ouvrir une boutique, qui était un de mes rêves gamine, parce
c'est
que
une boutique en ligne ou c'est une boutique physique?
Alors, j'ai eu une boutique physique qu'on a fermée en juin parce qu'on s'est rendu compte que d'ici on attend que le confinement fasse son effet et on s'est dit bah on va un peu ralentir et surtout on a tellement grandi en digital que et nous, comme on a beaucoup grandi en digital, ça rentrait plus dans une boutique parisienne nos stocks. Du coup, on a tout rapatrié aussi pour une consommation un peu plus lente aussi pour une entreprise qui va un peu plus lentement, on a tout rapatrié en Normandie. Mais quand je suis arrivée sur mon business model en expliquant à mon comptable, je vais vendre des crayons 1,50€. Le mec, il m'a dit, rappelle-moi le prix d'une de tes conférences. Ouais. Et personne n'y croyait. Sauf que, alors déjà, moi, ça m'amuse. Et c'est pour nous aussi, quand on est beaucoup dans de l'intello, avoir un truc concret, c'est très important. Et quand on était tous au bureau, régulièrement, t'avais des gens qui allaient compter les stocks parce que ça les détendait. Tu vois, aller regarder ce qui marchait pas, parce que le concret en fait pour moi c'est un équilibre en fait entre du trop intello, parce que enfin l'optimisme, sincèrement, t'as des articles, tu rencontres des gens, t'as juste envie d'aller te tirer une balle après, parce que pour nous l'optimisme ça part d'un réalisme, donc on parle aussi, enfin je veux dire, on fait intervenir des mecs, enfin voilà, qui des collapsos vraiment dans l'âme, hein, donc de temps en temps, t'as des jours où ben tu peux pas. Hein. Si tu incarnes l'optimisme, il faut toi-même que tu le sois. Et ben, aller compter des crayons, c'est quelque chose de manuel. Et on oublie les activités manuelles parce que soit t'as un job qui est pas manuel, soit t'as un job qui est manuel. Et nous, on veut faire une sorte de mixité. Et nos crayons, ça nous fait marrer. Et puis ça occupe mes parents qui sont qui sont retraités. Donc voilà, pour moi, c'est un cercle complètement vertueux. Et du coup, ça a cartonné.
Ouais, et du coup la boutique c'est que des produits que vous vendez, que vous créez vous-même, ou
C'est que nous qui les on crée tout. On s'était posé la question de faire une marketplace, mais on est encore trop petit en fait. C'est, tu vois, dans ma vision idéale, je me disais bah il faudrait qu'on soit une marketplace des petits, des gens engagés, des gens bons en fait, tu vois. Des gens qui on sait que c'est des belles techs, que c'est un beau mélange d'énergie et que bah, finalement, nous, notre compétence, c'est à faire rayonner. On est des amplificateurs. Vraiment, si j'avais une définition à nous donner, on est des amplificateurs du beau. Voilà. Je me disais que ça serait très cohérent, en fait. Mais ça demande une logistique, ça demande du juridique. Enfin bon, on n'est pas prêt encore à le faire. Je dis pas qu'on le fera pas, mais ouais, c'est des produits concrets. Et le paradoxe là-dedans, c'est que dans notre équipe, tous les dessins sont faits par des gens dont c'est pas du tout le métier. C'est-à-dire que Alexia, dans mon équipe, elle est incroyablement douée en dessin. Elle s'est mise à faire des visuels. Alison, elle a fait de la vidéo avant. Elle s'est mise à faire des infographies. Et c'est marrant parce que du coup, ça vient chercher des talents qu'on avait enfouis en nous disant que c'était pas utile à la vraie vie, parce qu'un prof t'avait dit non, toi tu feras des maths. Dessin, mais à quoi ça sert le dessin dans la vie? Bah, nous, c'est vachement utile. Donc, tu te retrouves avec des gens qui font de la compta et du dessin, Ça a pas de sens, mais ça vient chercher la pluridisciplinarité des talents de chacun dans l'équipe.
Après, ça a peut-être pas de sens dans l'ordre commun, mais justement, ça a peut-être le sens, le vrai sens, parce que finalement, c'est les deux hémisphères du cerveau, et puis, enfin, on est un tout.
Exactement. Et le paradoxe là-dedans, c'est que toute personne dans l'équipe est hyper créative, même si moi, vraiment, je me disais, enfin, c'est ce que je te disais à l'enfant, j'avais pas de passion. Ouais, je joue du piano, j'apprends des langues, mais je vais jamais au bout d'un truc. C'est-à-dire que quand j'ai fait 80%, ça m'intéresse plus de me perfectionner pour les 20% du temps. Tu vois, je préfère aller explorer d'autres sujets en permanence. Et j'étais très malheureuse de ça. Je me disais que j'avais aucun talent. Parce que comme j'avais quelqu'un qui écrivait beaucoup mieux que moi dans la famille, je m'étais dit, moi, je suis. Et pourtant, j'ai aimé écrire. Et tout à l'heure, tu sais, tu me parlais de l'enfance. Il y a deux choses que j'ai pas mentionnées. Quand j'étais gamine, j'avais créé dans la cour de récré. On était encore en France. Je crois que je devais être en CE1, peut-être CE2, j'avais créé la gazette de l'école qu'on vendait 5 francs dans la cour de récré. Je me rappelle que j'avais raconté des trucs et que j'avais fait des grilles de mots croisés. Donc finalement, j'avais déjà fait de l'instructif et du ludique en même temps. Et je me rappelle que je m'étais éclatée à faire ça. Hein. Vraiment, j'avais adoré. Je me rappelle de recevoir les pièces de 5 francs. Et après, quand j'étais en chimie, je regardais Carrie Bradshaw. Donc c'était Sex and the City. Pas tant pour les Louboutins. Et le paradoxe, c'est qu'un de mes meilleurs potes bosse chez Louboutins. Tu vois, enfin, la vie est marrante quand même. Hein. Parce que vraiment en chimie, j'étais encore avec des boutons, la blouse blanche, de la nana qui se demande quand même ce qu'elle fait là, à part la physique quantique, quoi. Et je me rappelle, je regardais Sex and the City et j'enviais Carrie Bradshaw, qui était l'héroïne de cette série, qui chroniquait sa contemporanéité. C'est-à-dire qu'elle racontait, en fait, ce qu'elle voyait. Et je m'étais dit, oh, j'adorerais faire ça. Finalement, c'est mon métier et tout s'emboîte, en fait, dans un parcours de vie. Mais.
C'est un puzzle.
Exactement. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment ça. C'est une sorte de puzzle où tu te dis, de temps en temps, on te donne la pièce. De temps en temps, c'est toi qui dois trouver la pièce et elle vient s'imbriquer. Mais tu vois, tout ça, j'arrive à le voir parce que, j'ai refait du parcours, j'ai retracé les histoires, j'ai écrit des bouquins. Quand t'écris des bouquins, tu retravailles ton parcours et je me rends compte, en fait, c'est complètement logique. Alors que de la rationalité, toute personne se dit, mais comment ça marche? Je trouve ton truc, Catherine.
Et tes bouquins, du coup, tu les as édités avec Michel Lafon.
Oui.
Comment ça s'est passé, les quatre? Et du coup, t'es venue avec une idée et...
Du tout. C'est que un jour j'étais au Portugal à l'époque, parce que quand j'ai monté, il y a un truc que j'ai pas dit qui peut être intéressant, c'est que quand j'ai monté l'optimisme, j'ai bien compris que si je restais en France, j'allais me refaire réembaucher, parce que dès que tu sors d'une boîte, t'as 3-4 personnes qui voudraient bien mettre le grappin.
Le comme chant toi, des sirènes.
C'est ça. Et toi, comme t'es quand même un peu dans une zone d'insécurité, t'as envie d'y aller parce que tu dis, ça serait quand même cool. Et puis t'as ton entourage, qui se moquait vraiment, à part 2-3 potes, ils s'en moquaient. C'était gentil, tu vois, mais ils s'en moquaient. Et j'ai bien compris. Donc je me suis barrée en Espagne. Je parlais pas un mot d'espagnol. J'ai tout quitté. Mon appart, mon machin. Enfin, j'ai vraiment tout quitté. Et je suis arrivée en Espagne où je connaissais personne. J'ai une passion pour l'Andalousie. Je suis partie à Barcelone. C'est logique. Tu vois, mais bon, et là, je me suis réinventée. C'était drôle parce que la première personne que je rencontre, je me dis, tiens, je vais faire des cours d'impro, tant pour apprendre l'espagnol que pour rencontrer des gens. Et je rencontre une nana qui me parle de synchronicité. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est les synchronicités, vous avez peut-être dû en parler, mais c'est quand deux événements qui n'ont pas de sens, en fait, de relation entre eux prennent du sens pour toi. Un peu comme cette phrase qui était une synchronicité sur bouger. Et cette nana me dit, tout est possible de toute façon. On a parlé pendant 3 heures à un bar d'un café. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, quand tu t'extrais d'un univers, en fait, on te remet sur ta route les personnes qui vont te cautionner dans ton projet. Et j'ai appris plein de choses avec ces gens à Barcelone, que je ne connaissais pas, en fait, mais qui ont compris, eux, le projet, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, c'est ça que je trouve très marrant, c'est que parfois, il faut vraiment s'extraire d'un système pour se réapproprier son propre soi. L'entourage change, et c'est très difficile de voir un entourage qui change, et j'ai eu 2-3 rencontres clés, peut-être que j'en parlerai. Je me suis extrait quand même parce que je savais que j'aurais du mal. Alors, on n'est pas obligé de partir jusqu'en Espagne, j'aurais pu aller ailleurs, mais
t'avais ce besoin.
J'avais ce besoin, et ce besoin, tu sais, de sensations vertigineuses, de se dire, je me rappelle, le jour où je suis arrivée à Barcelone, j'avais trouvé un coup de bol, que des coups de bol, moi, à ce moment donné, j'avais trouvé un appartement qui avait vu surtout Barcelone, et je me rappelle le soir, tu vois, pour le premier soir, regarder, en fait, cette vue incroyable sur Barcelone, et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'avais un bon job, j'avais un appart, j'avais un mec, j'avais une vie toute tracée, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, cette descente.
Du coup, t'as laissé ton mec à Paris,
J'ai tout quitté parce que c'était la même chose que mes potes.
T'as quitté le mec aussi, du coup.
Ouais. J'ai tout fait parce que, en l'occurrence, j'avais bien compris que c'était mon ancien univers, en fait, que ça ne rentrerait, voilà, que ça ne rentrait pas, qu'en fait, j'avais fait trop de cheminement et, en fait, que ça m'empêchait de continuer mon cheminement, en fait. C'était un temps et surtout, sans aucune rancœur. C'était des super.
Oui, vous n'étiez pas engueulé ou quoi, c'est juste que c'était le beau chemin qui n'était plus sur la même voie, quoi.
Exactement, exactement.
Toi, t'avais besoin de prendre la nationale et continuer sur l'autoroute.
Exactement, c'était exactement ça. Et enfin, ouais, je suis encore très pote avec. Donc, tu vois, il y a pas.
C'est la question que j'allais te poser parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus dans le podcast et c'est justement le fait que quand tu deviens vraiment qui tu es, quand tu assumes vraiment qui tu es, il y en a, ils prennent la nationale, ils regardent le paysage, ils admirent. Ouais. Les autres, ils continuent sur l'autoroute. Et il y en a pour qui, il y a jamais la recroisée entre la nationale et l'autoroute, en fait.
Ouais. Alors ça c'est très juste. Ça peut faire très mal au cœur. J'aimerais aussi donner cet exemple. Donc quand j'ai lancé l'optimisme, moi j'osais même pas en parler à mes proches. Je leur avais parlé de l'idée du média positif parce que ça faisait 5 ans que j'en parlais, mais j'osais pas leur montrer parce que pour moi c'était imparfait. J'avais des trucs dans ma to-do, mais les trucs dans ma to-do c'était en 2015, 2016. Ça, en 2021, ils sont encore dans ma to-do. En fait, et vu que j'ai un peu un culte de la perfection, j'osais même pas leur montrer. J'avais peur des railleries, j'avais peur. Ils me disent mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et puis en plus, dès que tu te lances, tout le monde te dit alors t'en vis. Ce fameux alors t'en vis, tes podcasts t'en vis, tu vois ce alors t'en vis. Enfin la question la plus absurde au bout de 6 mois, enfin et qui te dure pendant 2 ans. Hein. Mais alors tu crois que ça va marcher? Enfin bon bref, les trucs comme ça. Et c'est vrai
quoi ton business model? Tu te tais.
C'est quoi ton business model? C'est ça.
C'est changer la vie des gens en fait. Mon business model.
C'est ça, tu vois. Et puis à un moment donné, je disais, enfin moi, le business model, je sais toujours pas l'écrire. C'est-à-dire, heureusement que j'ai un comptable, heureusement que j'ai des potes autour de moi qui arrivent vaguement à m'expliquer, parce que moi, je leur dis, mais attendez, vous êtes bien mignon. Enfin, je tire aux cartes, c'est la même chose. Hein, je te tire les cartes. Dis-moi les chiffres que tu veux que je mette. Enfin, hein, à ce stade, mais vraiment, enfin, sincèrement. Et en plus, j'ai presque envie de te dire, 2020 m'a donné raison. Quel business model n'a pas pivoté en 2020, tu vois? Donc, mon tirage de cartes de 2019 peut marcher, tu vois, sur un business model. Là. Je rigole parce que Olivia. Si tu entends ça, c'est ma comptable. Et Antoine, si vous entendez ça, fermez les écoutilles. Bon. Mais pour le coup, je leur ai vraiment fait la blague en leur disant non mais vous êtes bien mignons. Enfin, c'est quoi de la croissance? Qu'est-ce qu'on sait? On est sur des sujets émergents. Donc à quel moment ce qu'on appelle le time to market va arriver? De temps en temps, 90% des entrepreneurs crèvent parce qu'ils sont ils ont trop d'avance en fait et que le temps que la population s'en rende compte, ça marche pas. Mais c'est la même chose hein. Dans le financement de podcasts et autres. C'est juste des gens qui comprennent que ça va être l'avenir. Ouais. Par exemple, donc voilà, mais à un moment donné, et ça, je pense que c'est très dur pour l'entourage, c'est-à-dire que je me suis mise à rencontrer des gens comme moi. Donc j'avais Martin, donc que j'évoquais tout à l'heure, qui était un copain qui avait lui-même entrepris. Donc je me suis beaucoup, c'était mon seul pote entrepreneur en plus, tu vois, j'avais pas. Donc je me suis beaucoup inspirée de lui. En fait, il a vraiment été. Je l'avais regardé pendant 3-4 ans avant. Il venait de la même boîte que moi, donc on avait les mêmes machins. Donc j'ai beaucoup regardé ce qu'il avait fait pendant 3-4 ans. Et par contre, j'ai eu des gens qui sont rentrés dans ma vie, comme j'avais pas osé en parler avec mes proches. Un jour, j'avais mis ça sur un groupe Facebook, l'optimisme, en me créant un faux profil pour pas que les gens voient. Enfin, le délire de la nana qui veut surtout pas montrer ce qu'elle a fait, quoi. Et quelqu'un, Thomas, un très bon pote aujourd'hui, arrive en me disant bonjour, je m'appelle Thomas, je comprends ce que vous voulez faire, rencontrons-nous. Et là, je me dis oh, un taré, en fait, tu vois. Mais je me dis, il faut que je connaisse mon public, en fait. Et là, je déjeune avec pour une hyper timide comme moi, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, j'y vais parce que c'est pour ma cause en fait. Et je déjeune avec lui et je me rends compte que le mec, il est complètement les pieds sur terre, il bosse dans un grand groupe, il pense juste qu'il faut que le monde change. Et tout d'un coup, j'ai mon premier interlocuteur. Puis finalement, il me met en contact avec d'autres gens et tout le monde comprend mon projet. Tu sais, pas de jugement, au contraire, c'est vas-y, comment on peut t'aider? Et donc en fait, je me suis retrouvée donc dans le club des 100 barbares. Alors bon, c'est des gens qui veulent un peu hacker la société, machin. tout d'un coup, j'ai eu mes interlocuteurs qui sont devenus mes piliers. Et effectivement, c'est très dur pour l'entourage traditionnel qui te voit évoluer. Mais pour moi, je donne souvent cette métaphore. C'est comme quand toi, tu es, quand des gens viennent te voir en vacances ou quand tu es le salarié, tu vois celui qui part. Et toi, tu restes en place. Mais celui qui part, il vit plein de nouvelles aventures que celui qui reste en place, généralement un peu moins. Et c'est vrai qu'avec ce groupe, j'ai vécu c'était devenu des piliers, parce que quand je doutais, c'était eux, c'était pas mes potes. Donc il y a eu un peu de jalousie de ton ancien cercle. Et puis à un moment donné aussi, c'est tout bête, hein, mais l'enthousiasme en fait des entrepreneurs, c'est pour ça que souvent il existe des réseaux d'entrepreneurs. Alors c'est pas pour un entre-soi à la base, hein. Moi je suis pas du tout, je déteste l'entrepreneuriat tech où tu n'as rien à foutre de la cause, t'es juste là pour scaler ta boîte et puis faire x3 pour la revendre à des investisseurs et
te faire au x3 t'es gentil, hein.
Voilà, ouais, c'est ça. Non mais tu vois, voilà, x30, mais voilà, ton enjeu, c'est juste de revendre ta boîte. Donc, il n'y a pas de sens. Donc, moi, c'était pas du tout ce délire. Au contraire, c'était vraiment de l'engagement. Mais ça a fait du mal à mes potes, parce que le pire là-dedans, c'est que des gens que tu ne connais pas, tout d'un coup, tu passes des soirées avec eux et t'as l'impression que c'est tes meilleurs potes, parce que t'as pas eu de tabou, parce qu'ils te comprennent, parce que t'as enlevé tous tes masques, parce que t'as pas fait du politiquement correct. Et il y a une relation à l'autre qui est fulgurante quand tu fais des soirées avec des gens qui sont censés être parfois qui sont devenus que des connaissances. Et je me rappelle, moi, aller à des dîners, me dire mais qu'est-ce que je fous là, où je m'emmerdais parce qu'on était en train de me parler de prêt immobilier sur où est-ce qu'il fallait investir, tu vois. Je me disais mais c'est tellement plus ma vie, tu vois. Ça, je comprends que ce soit la vôtre, je le juge pas, il y a pas de problème, parce que je dis pas que la mienne elle soit plus marrante et plus sympa, il y a pas de valeur entre les deux. C'est juste que je trouvais pas d'enthousiasme, leur enthousiasme à eux n'était pas mon enthousiasme à moi. Et puis j'ai commencé à dire non à des soirées. Donc déjà là, j'ai été vue comme la meuf pas sympa de dire non. Mais je descendais en énergie et je voyais des gens qui râlaient pour des trucs qui, pour moi, je veux dire, grandissaient, les mecs, tu vois. J'étais un peu comme ça, rendez-vous compte des vrais sujets. Et en fait, donc j'ai fait du tri, ça a fait du ménage effectivement. Mais sincèrement, je pense que j'ai juste une personne que je regrette un peu de pas trop voir aujourd'hui. Mais tu vois, enfin, on se souhaite notre anniversaire et c'est pas dit que dans 5 ans on se retrouve pas. Mais pour tous les autres, sincèrement, je les aime beaucoup. Je serais contente de faire une soirée avec eux parce que maintenant, il y a de la nouveauté en 5 ans. Il a dû se passer plein de trucs. Mais au quotidien, il me manque pas, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes causes, le même enthousiasme des choses, parfois, les mêmes craintes sur la collapso. Mais c'est triste à dire, ça peut être hyper violent parce qu'on se sent la connasse de service parfois, hein, parce que tu dis non, mais parce que ton projet te prend du temps. Et en fait, à un moment donné, quand ton projet te prend du temps, ton énergie, tu peux pas la dissoudre dans des futilités. En fait, tu vas vraiment straight to the point, tu vas être là pour des vrais fracas, tu vois, des ruptures, des pertes de proches, etc. Tu vois, t'es toujours là parce que, mais le micro truc où t'as quelqu'un qui t'appelle 50 fois pour une décision qui a pas été prise depuis 50 ans, c'est, tu vois, tu te dis vas-y, fais-le, tu vois, enfin, lance-toi. Et je sais que j'ai pu être très dure avec des gens autour de moi qui me disent c'est hyper violent parce que tu nous dis change. Bah oui, mais je sais pas te dire autrement, en fait. À un moment donné, j'ai plus les mots et j'étais pas bonne forcément dans ce rôle là
ouais, je pense que c'est un vrai sujet, tu vois. Je sais pas si tu connais Pedro Correa.
Oui.
Et Pedro, lui, il a quitté sa femme, il avait des enfants. Enfin, son ex-femme, aujourd'hui ne comprend toujours pas en fait ce qui s'est passé.
Bah oui. Bah en fait, c'est que parfois, on a tellement joué un personnage, on a tellement accepté une norme qui nous définissait. Parce que tout à l'heure, je disais, on est défini en France par notre boulot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois, je fais ça, en fait. Et puis moi, je suis incapable de dire ce que je fais dans la vie. En fait, voilà, je pousse une cause d'optimisme, j'essaie de faire au mieux. Enfin, voilà, mais tu vois, c'est cette définition dans laquelle on t'a mis. Et puis, c'est, voilà, le métro, boulot, dodo, les enfants, les machins, etc. Moi, je crois demain dans le co-living. Tu vois, je fais partie des gens où je suis convaincue, quand je vois comment les gens ont été malheureux pendant le confinement, je me dis mais attendez, c'est quoi cet habitat individualiste où on t'a expliqué que c'était ça qui était trop cool. Je te garantis que les gens qui ont vécu les confinements dans des maisons, parce que déjà en mode un peu décroissance, moins matérialiste, ils étaient nombreux avec un jardin, c'était des grandes vacances en fait, malgré Et j'en témoigne, malgré des pertes de chiffre d'affaires, malgré des pertes de job, malgré des pertes de proches, en fait, il y avait cet anima, cet enthousiasme, voilà, avec des enfants, sans enfants, peu importe, en fait, il y avait une sorte de vie qui continuait. Là, on a enfermé des gens, ils ont été enfermés avec tous leurs biens. Bon, bah super, hein, t'es enfermée avec toutes tes fringues, toutes tes plus belles chaussures. Et j'étais une grosse consommatrice à une époque. Hein. À New York, je me baladais le samedi, j'avais aucun but et je m'achetais des trucs en fonction des boutiques devant lesquelles je passais. Donc, tu vois, je viens de là. Donc, mais là, t'as enfermé les gens avec leurs plus grands biens et ils se rendent compte que les seuls trucs qui leur manquent, c'est le soleil, la nature et les proches. Bon, bah prenons-le en compte. Et c'est pour ça que moi, je vais dans un mode beaucoup plus décroissant aujourd'hui, en me disant, et c'est marrant parce que quand je me suis, j'ai déménagé la boîte en Normandie, je suis partie vraiment au fin fond des vaches, hein, là, bah, là où j'avais grandi avec mon tracteur, quoi. Quand j'ai déménagé là, tous mes potes m'ont dit, non, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, enfin, après, j'ai encore les deux pour le moment, hein, je suis en transition, mais j'ai dit, mais moi, je veux créer un gros écolieu où les gens passent. Et tu vois, les potes qui au démarrage, je te jugeais en me disant c'est quoi ce délire un peu bobo machin, là ils se rendent compte que là où on est il y a des gens qui passent, c'est joyeux, et là ils commencent déjà à réfléchir à eux-mêmes.
T'es où en Normandie exactement?
Dans le Cotentin, à côté de 40 ans, donc dans les marais. Si jamais quelqu'un est dans le coin, je ne connais pas grand monde, hein. Je suis preneuse de faire des rencontres dans le coin parce que j'ai tellement vécu à l'étranger partout que voilà, je reviens vraiment dans un lieu où il y a beaucoup de solitude, mais maintenant c'est devenu un lieu demain où j'espère qu'il y aura énormément de vie, de passage, et c'est vrai que c'est joyeux en fait. Et tu vois, cette joie, faut réfléchir à la notion de joie dans notre société, et même pour moi d'en ayant une boîte, parce qu'à un moment donné, quand t'as une boîte, tu fatigues, hein, de temps en temps, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, est-ce que j'irai pas refaire de la pub pour Coca, quoi? Enfin, tu vois.
C'est un vrai sujet, c'est de dire, même si t'es à ta place, il y a forcément des moments où, il y a des baisses d'énergie, des baisses de confiance.
Ouais. Moi, j'ai eu un gros coup de mou, et c'est vrai que la santé du dirigeant, on n'en parle pas forcément, parce que tu portes des équipes, tu portes un projet, tu portes beaucoup de choses, en fait, quand t'as une entreprise. Tu es dans un quelque chose de très inconnu, en fait, aujourd'hui, parce que, en plus, moi, j'avais, bon, déjà, quand t'es dans une boîte en grosse croissance, vraiment, je suis entourée avec des gens, c'est des atypiques, hein. Vraiment, j'ai des gens incroyables dans l'équipe, c'est vraiment des atypiques, des gens, qui sont capables de faire du dessin, de la compta, et après, écrire des articles où il n'y a pas une faute. Donc, tu vois, t'es vraiment, j'ai de la chance. Par contre, je me suis vraiment rendu compte aussi que, de temps en temps, t'as un gros coup de mou, donc tes seuls pairs, c'est des gens qui sont généralement comme toi, parce que c'est l'entrepreneur qui a déjà quelques personnes dans son équipe pour comprendre. Parce que là, ce qui se passe, c'est que en tant que patron d'entreprise, tu es en train, en plus, d'essayer de rassurer des gens par rapport à l'incertain, qui n'est pas ta boîte, parce que nous, notre boîte, ça tourne, qui est l'incertitude de la société dans laquelle on va aller, en fait. T'sais, avec des gens qui sont plutôt jeunes, qui se demandent est-ce qu'ils veulent avoir des enfants, du coup, dans une économie comme ça, t'sais, avec tout un tas de questions qui ne sont pas de l'ordre de l'entreprise, mais finalement, comme tu es la plus vieille, même si tu n'es pas encore, si tu n'as pas dépassé la quarantaine, quoi, tu portes des nouvelles responsabilités. C'est vrai que j'ai eu un énorme coup de mou en janvier 2019, qui tout d'un coup s'est terminé. Dès que j'ai vu le confinement, je me suis dit, ah, ça y est, les choses vont changer. En fait, je me suis dit, c'est bon, la prise de conscience, elle est pour maintenant, parce que je m'étais essoufflée. Ça faisait 3 ans où je me disais, c'est pas possible, ça avance pas assez vite, il n'y a pas de prise de conscience assez vite, il y a trop d'hypocrisie. Développement durable, qualité de vie en entreprise, bien-être sociétal, tu vois. Enfin, je trouvais le marketing trop fort, en fait, tout simplement, et je me disais, c'est pas possible. Vraiment, je voyais la société de deux façons, et vraiment, gros coup de mou, et il s'est passé deux choses. C'est que j'ai eu, j'ai appelé un pote en lui disant, comment t'as vécu une boîte, en lui disant, comment tu fais les jours de coup de mou pour pas te dire que, en plus, toi, tu peux vivre d'autres choses, tu vois. Moi, je peux vivre de mes bouquins, par exemple, tu vois, en disant, comment tu déposes pas les armes, en fait, à un moment donné, en disant, pourquoi tu fais ça, t'es fatigué. Et qui m'a dit, tiens bon, c'est quand tout va s'effondrer qu'on aura besoin de l'optimisme. C'était 3 semaines plus tard. Mais ce truc-là, ça m'a marqué, en fait. Juste un petit tiens bon, en fait. Ça peut avoir tellement de puissance.
Ouais, s'il arrive au bon moment, ouais.
Parce qu'il arrive au bon moment, et par contre, en tant qu'entrepreneuse, que femme entrepreneuse, je me suis aussi rendu compte, alors c'est très con ce que je vais dire, désolée pour les auditeurs hommes, mais qu'on est cyclique. C'est-à-dire que j'ai compris, clairement, en fait, que selon mon cycle, il y a des jours où je suis hyper productive et il y en a d'autres où, tu vois, où j'ai froid, où je suis vraiment en PLS sous ma couette, en fonction de mon cycle, voilà, de nana. Et du coup, j'ai fait la paix avec ça en me disant, ben, c'est cette norme où faut pas travailler le samedi, le dimanche, tu vois, qu'on t'impose quand t'es entrepreneur, où tu dis, faut que je le fasse, ben non, c'est parce que moi, je vais pas travailler un mardi, un mercredi, parce que de toute façon, je regarderai mon ordinateur dans le blanc des yeux, j'arriverai à rien. Que finalement, si c'est le dimanche que ça va, ben, j'y vais, en fait. Je vais vraiment chercher plutôt que la rigueur, l'optimisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément en entrepreneuriat. On te dit, tu vois, de te caler des horaires, machin, des week-ends, des trucs. Moi, c'est plutôt, je m'écoute profondément. Et puis, tu as des périodes où on est hyper productif, hein, même toute l'équipe, hein, et d'autres où on l'est moins. Et c'est le cycle, en fait, tu vois. Et c'est des trucs qui nous transcendent, qui nous dépassent, en fait.
Ça, c'est un truc super intéressant. Quand, suite à mon burn-out, j'ai été suivie par une coach qui m'a dit, parce que je lui disais, ah, j'ai encore des bas, machin et tout. Et elle m'a dit, écoute, suis ton cycle. Donc, avec une appli, j'ai téléchargé Clou. Ouais. Et en parallèle, j'ai regardé un TEDx d'une personne qui a lancé un truc qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui permet, ouais, en fait, de comprendre vraiment, bah, voilà, ce qui se passe hormonalement et d'expliquer qu'en effet, bon, on sait toutes, hein, qu'on est irritable juste avant nos règles, mais qu'en fait c'est beaucoup plus. Enfin, elle dit, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a un logiciel de gestion de projet intégré en nous, et que l'idée maintenant, c'est de, bah, c'est pas de le subir, de comprendre qu'on n'est pas linéaire comme un homme, mais c'est justement, bah, capitaliser là-dessus. Et comme toi, avant, j'avais vachement de mal en me disant, non, mais là, il faut que je me mette devant mon ordinateur et compagnie. Et maintenant, bon, bah voilà, je sais que de toute façon, il y a des jours, je sais que je servirai à rien, donc bah c'est pas grave. Je suis cool et puis bah, le lendemain j'ai la pêche et donc bah, j'en vois comme jamais quoi. C'est mais ça, il faut un petit ça, moment pour accepter le truc.
Ouais. Ouais, il y a un bouquin effectivement qui est un peu perché, hein. Je crois que c'est Miranda May qui l'a théorisé justement. Elle t'explique que t'as des phases de créativité, des phases de recul, t'as quatre phases dans ton cycle. Exactement. Et que c'est normal finalement de prendre le temps d'intégration. Mais j'avais trouvé ça très intéressant. Inaudible dans le monde de l'entreprise. Parce que une fois, je l'ai dit, par exemple, ça en conférence, et il y a quelqu'un qui m'a dit, les hommes aussi sont cycliques. Une femme qui me dit, les hommes aussi sont cycliques. Et là, je me suis dit, ah là là, c'est vrai, je fais peut-être de la discrimination à le dire. Mais bon, je préfère le dire pour moi, pour Catherine. Je sens que je suis cyclique. Je pense qu'il y a des trucs avec la lune, des trucs que je comprends même pas, en fait. Mais bah, écoute, si je me sens moins bien, il y a des, et puis, en plus, quand t'es auteur, tu le sais très bien. T'as des jours où t'écris bien, t'as des jours où t'as rien qui vient, en fait. Et ça, tu n'y peux rien, en fait, et tu le sais. Donc, faut arrêter de se théoriser qu'on est complètement linéaire et qu'on va tous les jours bosser de la même façon quand on n'est pas dans une entreprise où on ne nous impose pas des trucs. Et tant mieux, on est optimisé, en fait.
C'est ça. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?»
Bah, quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée, le jour où j'ai vu, où j'ai lu cette citation, « si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre », je me suis dit, bah, pourquoi, enfin, finalement, si personne le fait, pourquoi pas moi? C'est vraiment ce jour-là.
Comment tu célèbres tes réussites?
J'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir mes réussites. Je sais pas encore ce que j'ai réussi. Les réussites, c'est, techniquement parlant, pardon, si on a, on travaille avec Slack dans mon équipe et on a un channel victoire. Mais de temps en temps, c'est des micro-victoires sur des trucs complètement débiles. Donc, on le marque là-dedans. Les victoires, je sais pas encore si j'en ai eu. Je m'en rends pas compte. Les seules victoires que je peux avoir, c'est quand on m'envoie des messages un peu comme toi, probablement. Quand quelqu'un te dit, ben, j'ai lu ça. Suite à ça, j'ai changé de voix. Je me suis rendu compte de ça. Je trouve que ça me au démarrage, j'angoissais quand des gens me disaient, j'ai lu vos bouquins. Alors, j'ai démissionné. Je me dis, donc, dans le deuxième bouquin, j'ai dit, surtout, ce que je dis, c'est pas forcément de démissionner parce que j'avais la responsabilité de la démission sur des gens, je me suis dit, oulala, mon Dieu. Mais finalement, si on sait qu'on fait du bien, je crois que c'est là ma plus grande joie et elle est très linéaire. J'ai pas vraiment d'énormes joies. Et je suis, tu vois, par exemple, je suis pas du tout quelqu'un à cadeau. Je suis mal à l'aise quand on me fait un cadeau. Je suis mal à l'aise quand j'en fais un. C'est pas du tout dans mon, je célèbre tout autant le ciel. Je pense que je dis 50 fois par jour, je suis contente, il fait beau. Un jour où il fait beau, je suis contente, il fait beau. Enfin, donc voilà, c'est ça. Ma vraie joie, elle est là, en fait. Il n'y a pas de succès si ce n'est de savoir observer un ciel qui est bleu. J'ai pas de vrai succès, en fait, j'ai l'impression.
Et c'est une transition sur ma question d'après. C'est quoi pour toi la réussite de façon globale?
L'enthousiasme. la joie. C'est quelqu'un, Eva, dans mon équipe, il y a 2 ans maintenant, m'avait demandé comment tu vois la boîte dans 1 an. Donc, c'était en juillet 2019 et je lui ai dit, je sais pas, mais j'espère qu'il y aura toujours de la joie, en fait. Parce que, et qu'est-ce que j'avais bien fait de formuler cette réponse, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même confinement et autres. Et je crois que la plus grande joie, c'est de... Quand il y a de l'enthousiasme, ça veut dire qu'on est à la juste place, au bon moment, dans la bonne cause. Parce que c'est pas l'enthousiasme de tu ouvres ton gâteau, tu vois, ou tu ouvres un cadeau. C'est vraiment l'enthousiasme du quotidien, dans le sens de ce que tu fais, dans tes missions. Voilà. Donc la vraie réussite, je dirais, c'est d'être enthousiaste sans faire de casse à côté. Parce qu'on peut toujours faire de la casse inconsciemment. Donc je dirais que c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Catherine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Tu t'es enfin rendu compte que les autres aussi ne sont pas parfaits ? Genre, tout le monde est imparfait, en fait. Et moi, j'avais l'impression que tout le monde était mieux que moi, en fait.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ?
Je dirais la stabilité. Parce que la vie entrepreneuriale... Pourtant, je me trouve plutôt assez, voilà, c'est instable en fait parce qu'il y a de l'inconnu. Peut-être l'inconscience, parce que quand tu travailles dans le développement durable, quand tu veux continuer à l'être, quand tu travailles dans l'optimisme, moi j'aimerais quand même donner on reçoit des emails de gens qui s'adressent à un citron, qui nous disent qu'ils se font violer ou frapper et qui nous demandent comment être optimiste. Parce que, visiblement, il n'y a pas suffisamment d'écoute. Hein, donc, ils s'adressent à un avatar. Donc, tu vois, une vraie réalité de ce qu'est la société. Donc, c'est de maintenir un optimisme, en fait. Finalement, le renoncement, c'est de ne pas rentrer dans une forme de colère. Donc, il y a un gros renoncement là-dessus et probablement pécunier, hein. Je veux dire, oui, dans l'absolu, ma boîte vaut du pognon maintenant, mais c'est pas du tout dans les plans de la vendre, donc c'est complètement irréel, en fait, irrationnel tout ça. J'ai été dans un mode de vie beaucoup plus slow, c'est-à-dire que c'est fini l'hyperconsommation, mais ça me caractérise bien. Et il y a une notion, ouais, de précarité, mais de précarité heureuse. En fait, tu vois, Pierre Rabhi dit souvent de la sobriété heureuse. Moi, il y a une notion de beaucoup plus de voilà, une sorte de précarité plus heureuse. Alors, je dis pas du tout que je suis dans une quelconque précarité, hein. Enfin, il y a pas de sujet, mais comparé, en fait, avec à avant. Ouais. Et je renonce aussi à être dans le moule, en fait. Alors maintenant, je suis dans le moule des atypiques. Bon. Et au-delà de ça, tu renonces aussi quand tu t'exposes publiquement, parce que maintenant je suis de plus en plus exposée publiquement, tu renonces à une forme de tranquillité, tu vois. Donc tu te soumets au jugement de l'autre quand t'es auteur, hein, déjà tu te soumets au jugement de l'autre, enfin tu me verras avec ton livre, quand tu lances un projet, tu te soumets aux critiques de l'autre, donc t'es un peu moins paisible, hein. Donc c'est pour ça le monde du salariat, moi je lui crache pas du tout dessus. Il a bien des avantages aussi, mais c'est voilà, c'est deux univers complètement différents.
C'est quoi les plus grandes difficultés, enfin ou la plus grande difficulté que t'as eu à gérer et comment t'as géré ?
Les recrutements, parce que je suis pas bonne manager, parce que ça m'intéresse pas de l'être. En plus, c'est ça le pire dans l'histoire. Moi, je suis très atypique. On m'a jamais drivée. Dans aucune de mes expériences avant, j'ai eu un quelconque management. Donc, je sais pas ce que c'est le management, à vrai dire. Je ne suis capable de travailler qu'avec des gens très atypiques, donc très multipotentiels, la curiosité pour nous est un enjeu absolument extrême dans notre entreprise. La capacité de compréhension, d'adaptation. Enfin, quand on est dans les bureaux à Paris, on avait une boutique à l'époque aussi. Le matin, tu peux rencontrer un YouTuber super connu, puis t'as le patron d'une grande boîte qui arrive, puis t'as un passant qui arrive, puis t'as un artiste. Et il faut savoir parler différents langages, différents univers, être ouvert à l'autre. C'est des composantes de caractère qui sont très compliquées et ça a pu mettre en défaut des gens qui sont passés dans notre entreprise qu'on n'a pas gardé. De fait, parce que cette hyper vitesse, cette hyper activité, cette multi machin a mis des gens en souffrance. Donc ça, c'est les recrutements, moi, sont des points de vigilance parce qu'en plus c'est devenu des potes. Tu vois, je veux dire, parfois on a même embauché des potes. Donc
ça c'est dangereux.
Ça, c'était dangereux. Bah ouais, on a embauché des potes pour les dépanner presque, tu vois. Et en plus, les gens trouvent ça cool d'être chez nous parce que bah, tu apprends des choses. Sauf que derrière, très vite, tu les mets en zone de souffrance parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas adaptés à ce type de structure. C'est pas que c'est bien, que c'est moins bien. C'est juste que moi, je suis... pour moi, la liberté de penser, c'est le truc le plus fondamental. Et t'as des gens, ils ont besoin qu'on leur dise quoi penser et quoi faire. Moi, ça, je suis pas capable de le faire, en fait. Et puis, j'ai pas de manager dans mon équipe. On est trop petit. Donc, voilà. Pour moi, la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneuse, c'est le recrutement.
Je pense que c'est un vrai enjeu, tu vois. J'en parle régulièrement parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage et avec des gens bon, qui ont des équipes et tout et qui disent, en effet, savoir, enfin, assumer ce que tu veux vraiment, quelles sont les valeurs de ton entreprise et ce qui est intangible et que si les gens ne correspondent pas à cette vision de l'entreprise ou à ces valeurs, c'est pas les bonnes personnes et c'est pas grave en fait, c'est juste que
c'est ça.
C'est comme dans un couple, tout le monde n'est pas fait pour être ensemble et c'est pas grave.
C'est ça. C'est ça. En fait, c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et il y a des gens que j'adore, que je reprendrai pour d'autres missions, mais qui n'étaient pas adaptés à la mission à intenter. Et c'est vrai que on a besoin de gens très très particuliers. Enfin, mais et pourtant les recrutements qu'on avait, c'était des gens, enfin. Incroyable. Et en plus, il y a quelque chose de très difficile pour nous, c'est que comme on parle de QVT, les gens ont l'impression presque que le matin on fait des team building et que l'après-midi on fait des réunions. Tu vois, non, la réalité c'est que j'ai des gens dans l'équipe qui sont des vrais, vrais bosseurs, qui sont des gens capables d'avancer. Et du coup, celui qui nous rejoint, faut qu'il ait cette même composante de caractère, sinon ça va pas, on n'y arrive pas. Et ça a été très dur parce que t'as l'impression de faire des dégâts. Alors, après, a posteriori, je sais que non, en fait. Mais sur le coup, tu te dis, et puis t'es désolé pour la personne que t'apprécies au demeurant en tant que personne, en fait.
C'est quoi tes peurs?
Je pense que j'ai une seule peur, la perte de mes proches. Sinon, j'en ai pas.
Non, quand tu t'es lancée, t'as pas eu peur
Parce que j'ai hacké mon cerveau en me disant que je faisais une expérience. Alors ça, peut-être que je vais le dire parce que je crois que ça peut être intéressant. Je te parlais des alors t'en vis, alors tu gagnes du pognon, alors c'est quoi ton chiffre d'affaires, tu vois, enfin ce genre de truc que je trouve débile. J'ai dit aux gens quand j'ai lancé l'optimisme, je regarde si les Français sont prêts à avoir un média positif. Je vis l'expérience. Donc soit ça va me dire non ou moi je suis pas capable de le faire. En fait, soit je vais me dire j'y arrive à le faire. En fait, du coup j'ai dit aux gens je regarde si je suis capable de faire de créer un média positif. Donc que j'ai eu un oui ou que j'ai eu un non, genre non ça m'intéresse pas. Et la personne qui a envie de vivre, de vendre ses œuvres, qui se dit je vais le faire, qui se rend compte que non ça la saoule parce que dès que elle a envie de vendre une œuvre, elle réprime sa créativité. Faut qu'elle ait le pouvoir de dire non, c'est pas fait pour moi, en fait. Et si tout le monde lui dit t'as pas réussi, en fait, si elle a peur de cet échec, ça va pas le faire. Du coup, se dire que on tente, on regarde si je suis capable de devenir artiste, le simple changement de nom, ça fait que non, en fait, c'était pas pour moi, je fais autre chose. Et ça enlève la notion d'échec. Donc, j'ai toujours enlevé la notion d'échec. J'adore la notion. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de pulse. Pour moi, j'ai l'impression de faire un pulse. On me donne des pièces en fonction des expériences de vie ou pas. Ou alors, j'ai l'autre métaphore. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tu sais, je vis dans des mondes, je vis dans des univers. J'apprends, en fait, de ces univers. Donc, il n'y a pas d'échec fondamental. Tu vois, le pire échec, c'est d'avoir zéro. Mais je veux dire, il suffit que l'économie craque pour que tout le monde ait zéro. Donc, bon, tu vois, c'est l'expérience de vie qui, pour moi, a de la valeur.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
De quoi je suis la plus fière? Je pense d'être sympa. Tout le monde se dit que la gentillesse, c'est quelque chose d'abscon. Enfin, je sais pas, je crois que le truc que j'arrive à mieux le faire, c'est d'être... Enfin, les gens m'émerveillent naturellement. Donc, je dirais que je pense que c'est de ça dont je suis fière, de réussir à garder l'émerveillement de l'autre, quand bien même, parfois, ils sont des gros connards sur certains domaines. Je crois que c'est ça. De ne pas être devenue collapsologue.
Si tu croises une personne qui connaît pas du tout ton histoire et qui te dit, mais en fait, t'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre?
Bon, si tu veux le croire, oui, pas de problème. C'est ton avis. Je vais surtout pas convaincre qui que ce soit.
Oui, tu dis oui, bah oui. Ah oui, pas de problème. Oui, peut-être.
Est-ce que y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
Ouais, y a le, au pire, ça marche. Vraiment, c'est cette notion, peut-être que vous en avez déjà parlé dans tous les podcasts, mais cette notion d'imperfection. Limite, l'imperfection, ça donne une authenticité qui fait du bien et on est tous imparfaits, en fait. Et surtout, on est tous bardés de doutes. Ça, c'est en écoutant tes podcasts, je pense que ça se révèle. Mais j'ai pas rencontré un grand artiste qui me dise j'ai peur que les gens m'aiment plus parce que je comprends pas pourquoi on m'aime. Un patron qui me dise bah tu sais moi j'ai eu de la chance d'en arriver là en fait. Moi enfin ou alors dans mon couple ça va pas. Enfin tu vois on est tous bardés de doutes en fait. C'est juste qu'on les dit pas donc on est tous pareils.
Ouais. C'est quoi le meilleur qu'on t'a donné, le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, ça serait go. Le fameux Thomas dont je parlais tout à l'heure qui me disait go, vas-y, tu vois, juste ça, c'est pas un conseil, mais cette phrase, le go, ça dit tout, c'est vas-y, essaye, tu vois, essaye, amuse-toi, en fait. Et ne pas perdre l'enthousiasme, vraiment, ça, c'est quelque chose d'important parce que quand on rentre dans des problèmes de paperasse, quand on a peur des trucs de Pôle emploi, dès que tu commences à gérer parfois avec de l'administratif, t'as peur parce que c'est pas ta zone de confort. Tu sais que tu dépends de l'autre, en fait. Et ouais, d'essayer. Enfin, go, quoi.
Ouais. Il y avait un petit truc, je me posais la question. Donc, t'as créé le premier club des Chief Happiness Officers en France.
À l'époque, ouais.
À l'époque, c'était très tendance et très bien vu. Aujourd'hui, ça peut avoir une connotation plutôt négative en mode, rendre heureux les salariés juste avec un baby-foot, c'est un peu de la poudre aux yeux.
Ouais. Donc ça c'était à l'époque et à l'époque c'était pas bien vu hein. C'était pas bien vu, mais il y a une grande illusion qui est l'illusion médiatique encore une fois les médias m'appelaient est-ce que tu pourrais nous donner un chief happiness officer, mais il faut de l'image, alors il faut qu'ils mettent en place un baby foot et qu'on fasse des cours de yoga ou qu'il y ait des petits déj en fait. Et du coup on a caricaturé le métier de chief happiness officer à ça. Et c'est vrai que le métier de chief happiness officer à l'époque et toujours encore aujourd'hui est un métier très protéiforme. De temps en temps, dans une petite boîte, ça va être un office manager qui va être le garant entre guillemets de la qualité de vie en entreprise. Moi, j'ai vu des entreprises de 5-6 000 personnes dans une tour où il y avait même pas de service QVT, où il y avait un pauvre mec qui essayait de faire avancer les choses. Et c'était très drôle ce paradoxe parce que moi, j'ai jamais voulu rentrer dans le débat parce que bien-être en entreprise, bonheur, machin, c'est la même chose que le débat RSE ou développement durable. On peut très longtemps tourner autour d'un mot, autour d'un concept pour ne surtout pas y aller. Donc, il y a eu beaucoup. Moi, je rentrais jamais dans ces jeux-là. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, à un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais, entre guillemets, tous les profils atypiques des boîtes, tous les mecs qui étaient au potentiel, caractérisés comme au potentiel, alors que la caricature avait l'impression que c'était un truc un peu fantasque ou vraiment du pur happy washing avec du bullshit. Des boîtes, et il y en a, hein, je dis pas du tout le contraire. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup plus de construction intellectuelle qu'on ne le pensait. Et moi, j'avais que des gens, mais genre incroyables, tu vois, qui bossaient à l'innovation, au RH. Et justement, par exemple, les RH souvent détestaient ce métier. Enfin, je tranche dans la caricature, hein, mais comme ça, enfin, parce que c'est généralement celle qui est véhiculée. On a l'impression que c'est un truc un peu fausse-fesse, mais attendez, là, les sujets 2021, 2022, 2023, c'est la santé mentale. Code du travail 1910, assurer la santé mentale et physique de ses salariés pour une entreprise. Donc, ce truc, cette illusion du sujet, en fait, c'est le problème de Chief Happiness Officer. Le mot en soi n'est pas une connotation française. T'es responsable, enfin, tu vois, je veux dire, c'est comment on peut être responsable du bonheur des autres. Donc, le mot, en fait, a fait sourire. Ce que je comprends, moi, je l'ai pas cautionné, tu vois. Donc, très vite, on est passé sur l'optimisme.pro parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des mecs, mais genre, c'était le numéro 3 du groupe qui venait. Tu te dis, t'as les petites perles de sueur qui sont là parce que tu crois à l'inclusivité, tu crois que faut sortir du cadre. Donc, t'as mélangé dans la salle une nana de 25 ans et le numéro 3 d'un groupe qui s'appelle que par leur prénom et qui savent même pas qui ils sont, en fait. Mais c'est juste une intention et c'était ça qui est drôle parce que tous les mecs qui sont, enfin, je veux dire, Renault, Microsoft, L'Oréal, des gens Mais vous les verriez, vous leur faites un grand câlin. Vous les aimez parce que vous savez qu'ils sont en train d'essayer de déplacer des montagnes dans des systèmes où parfois c'est vachement dur. C'est juste des gens, mais d'une incroyable beauté du cœur, en fait, qui sont là. Et les trois quarts, mais personne ne sait qui ils sont, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres casquettes parfois. Parfois, ils ont des titres complètement différents d'expérience collaborateur parce que le mot Chief Happiness Officer, comment ça s'appelle, est un peu couillon. Mais la réalité, c'est que moi, en fait, ça m'a fait venir... je détestais le manager 4.0, le machin, tu sais, moi, je déteste tous ces termes. Et je savais qu'en mettant ce mot Chief Happiness Officer, j'allais avoir que les gens qui allaient être allés au-delà du mot. Et du coup, j'allais avoir les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que je suis longtemps restée avec ce mot. Et puis, à un moment donné, j'en avais marre quand je devais le justifier dans les médias. J'en avais marre d'aller le justifier. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah non, c'est pas que les Chief Happiness Officer, je réoriente. Mais j'ai des gens qui sont... Mais ils s'appellent Chief Happiness Officer, ils sont DG, tu vois.
Et là, tu te dis, hein.
C'est tellement drôle, c'est tellement cocasse, la distorsion entre ce que... En fait, on voit ce qu'on a envie de voir, en fait. Si on n'est pas convaincu, le simple mot sert la critique. Puis t'as les autres qui se disent « Ah, c'est quand même cool comme concept, je vais regarder le concept. » Et là, tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe et que c'est des mecs, de temps en temps, c'est les bras droits des boîtes. Exactement, c'est le même parallèle avec le développement durable à l'époque. Mais demain, le sujet de la santé mentale des entreprises, c'est le sujet numéro un. Donc,
ah bah, clairement.
J'ai envie de te dire, qui pourrait se moquer du sujet du bien-être du collaborateur en ce moment, hein? Donc, bon. Ça me fait, tu vois, ça me fait sourire parce que ça va devenir le sujet de 2022 probablement. Donc je me dis bon ben voilà. Encore une fois, c'était pas trop. On n'était pas trop à côté.
Non. C'est quoi tes prochains défis ?
Finir un livre. C'est bon, ça. Je sais que je suis capable de le faire, mais c'est quand même lourd. Enfin, tu le sais, la fin de l'écriture d'un livre, c'est lourd. J'ai des grands projets qui sont vraiment des rêves. Hein. J'ai envie de faire un tour de France de l'optimisme. Ça, on voulait le faire. On a plein de gens au cadre de lecteurs. En fait, aller à la rencontre des lecteurs. Moi, il y a un TED qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je sais pas, et j'invite tout le monde à le regarder. C'est celui d'Amanda Palmer. Il est pas forcément très connu, où elle t'explique qu'avant, elle était, elle était statue à Barcelone et que du coup, elle était devenue chanteuse et qu'elle savait demander aux gens et qu'elle avait, tu vois, que quand elle allait dans un lieu, elle demandait aux gens qui étaient dans le lieu de lui filer une guitare, de l'accueillir, etc. Et tu vois, cette notion de remettre un peu son parcours dans la main des autres, ça me fait vraiment envie, en fait. Et il y a quelqu'un dans l'équipe aussi. Donc, vraiment, tu vas partir rencontrer les lecteurs pour aller, voilà, revisiter aussi la France, tous ceux qui s'engage. Donc ça, c'est vraiment mon rêve. Je sais pas à quel terme on pourra le faire parce que trop optimiste, ils ont véhiculé un virus aux quatre coins de la France, tu vois, ça serait pas tellement sympa en termes de buzz. Donc voilà, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et depuis le démarrage, tu vois, quand tu me demandais à quoi ressemblait le projet au démarrage, ben voilà, il ressemble à toujours à ce que je voudrais qu'il soit aujourd'hui, avec encore plus d'articles.
Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture?
Moi, j'ai beaucoup aimé Le Prophète de Gibran, que j'ai lu récemment. Il était passé entre les mailles, mais j'ai beaucoup aimé Le Prophète de Gibran, L'Alchimiste de Coelho, mais qui doit t'avoir été cité déjà moult fois. Ah bon?
Bah, voilà. En fait, j'ai rajouté la question il n'y a pas longtemps, donc du coup...
Après, j'adore des bouquins un peu plus sur d'autres sujets, sur apprendre au 21e siècle de François Taddeï, sur l'apprentissage. J'aime beaucoup le bouquin de Pascal Desmurger sur l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas. En fait, je lis vraiment du 360, donc dans les plus faciles, on va dire, c'est pas facile, c'est plutôt les plus métaphoriques, il y a Gibran et Le Prophète et l'Alchimiste. Et ouais, c'est deux bouquins et peut-être un troisième, parce que tu m'as pas arrêté. Ça serait d'Émile Servan-Schreiber, Super Collectif, la puissance de l'intelligence collective. Ouais. Je t'en ai fait trois côtés un peu pro et deux côtés un peu plus inspirationnels.
Super. De toute façon, je mettrai tous les liens sur le blog. Et puis, évidemment, je mettrai le lien aussi vers l'optimisme.pro et l'optimisme.fr. Oups. De toute façon, ouais. Si on arrive sur quoi? Si on arrive sur l'optimisme.fr?
Sur le même.
Ah, bon, ça va alors.
sur le .com. Bon. Donc, c'est possible que tu passes toujours par le .pro, le .fr.
OK. Donc, c'est bon, on n'emmène pas chez des personnes concurrentes. Non, ouf.
Tout va bien.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Bah, à tous ceux qui suivent notre aventure, en fait. C'est grâce à eux qu'on en est là, à tous ceux qui lisent les livres, à tous ceux qui partagent, parce que, enfin, moi, de l'idée à la concrétisation, j'ai mis ma vie dans les mains d'autres gens. J'ai, en budget communication, c'est zéro. J'ai pas de pognon pour acheter de l'ad Facebook et Google, et en plus j'ai pas envie de le faire. Donc je crois dans la force du collectif, je crois qu'on est en train de passer, tu sais, du vertical du pouvoir à l'horizontal de la puissance, en fait. Et c'est les gens qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et non, c'est vraiment les gens. Alors évidemment, il y a tous les gens que j'ai cités, hein. Tout à l'heure, j'ai cité Martin Guillaume, qui j'ai cité d'autres Thomas. J'ai cité que des mecs aujourd'hui, tiens.
Non, t'as cité ta comptable.
Olivia, j'ai cité Nina. Enfin, tous les gens, en fait, qui ont été sur ma route pour nous aider, enfin pour m'aider moi à titre individuel. Et puis, enfin. Toute personne, on a beaucoup parlé d'entourage aujourd'hui, mais toute personne qui, de façon consciente ou inconsciente, et ça, j'aimerais, je finis quand même là-dessus parce que je crois que c'est important. Le mec qui a publié ma citation, c'est le dessin dégueulasse. Mon pote, il vivait en Inde à l'époque, donc je pense que c'est en anglais, hein, la citation, donc je pense que ça vient vraiment du bout du monde. Ce mec-là, il saura jamais qu'il a changé ma vie. En fait, j'ai aucun moyen de le remercier. Je suis incapable de remonter. J'ai même perdu la citation, donc j'ai même plus.
Tu sais même plus qui était cette personne?
Non, je sais quel est mon pote qui l'avait publié.
Ah oui, mais la personne qui a fait le dessin qui...
Oui, qui avait dû être, tu vois, enregistré 100 fois avant d'arriver jusque dans mes mains, cette personne, elle saura jamais qu'elle a changé ma vie. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui a changé ma vie. Du coup, ne minimisez jamais une petite action, elle peut changer la vie de quelqu'un. Et moi, je me rappelle, ma meilleure pote, elle m'a toujours dit, mais mettre des citations, c'est quand on n'a rien à dire, Catherine. Non, maintenant, je suis devenue auteur, donc je me cite moi-même. Donc, c'est pratique, tu vois, parce que j'ai cheminé. Mais en l'occurrence, si, en fait, c'est hyper important. Enfin, qui on est pour préjuger de ce qui va changer la vie de l'autre. Non, la réalité, c'est que une citation tout aussi couillonne que qui ne n'aime pas l'ordre tué, ben voilà, moi, elle a eu un énorme impact. Et la simplicité n'est pas égale au simplisme. Elle dit beaucoup de choses, cette citation. Donc, retour à la simplicité, retour à la petite action et le sourire que vous faites à quelqu'un dans la rue, c'est peut-être ça qui va faire que le soir, elle va oser prendre contact avec quelque chose. Enfin, on ne sait pas. On n'est pas Dieu, on n'est pas devin. Mais agissons en conscience, en fait. Ouais. Mais n'attendons pas, en l'occurrence, de savoir les conséquences de nos actes. Ça nous dépasse largement.
C'est clair. Ça me fait penser, cette semaine, j'ai reçu un email d'une personne que je ne connaissais pas, qui vit à New York et qui est une Française et qui m'a dit, bon, qu'elle avait fait un burn-out, elle avait un très, très gros poste et tout, en disant, bon, bah, j'imaginais pas que ça puisse m'arriver à moi. Et puis, elle me dit, il y a une phrase, en fait, qui m'a fait prendre conscience de la chose. Et donc, elle me fait un copier-coller de cette phrase. Et en effet, bon, bah, ayant vécu un burn-out, je relis cette phrase et j'ai compris pourquoi, enfin, ça résonnait bien. Mmh. Et je dis, ah, bah, génial, ça vient d'où? Enfin, elle me dit, bah, ça vient de votre podcast. Ah, je dis, OK. Et c'était François Michalon que j'ai interviewé qui avait dit ça. Et c'est en fait ce que je trouve génial, c'est que c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu vas offrir un contenu, tu vas offrir un témoignage, mais en fonction de chaque personne ou en fonction de chaque moment dans la vie qui va écouter ça ou lire un de tes livres ou une citation, ça va résonner et ça va potentiellement faire un déclencheur qui va leur changer leur vie, en fait.
Exactement. Et tu vois, pour donner beaucoup de conférences, à un moment donné, à la fin de mes conférences, je demandais aux gens avec quoi vous allez repartir de la conférence. Et en fait, je me rendais compte qu'ils avaient entendu ce que je n'avais pas dit. En fait, ce qu'ils entendaient n'était pas fonction de ce que je disais, mais de ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et ça m'a, je trouve que ça ramène à déjà beaucoup d'humilité. Et ça me faisait des frissons quand tu me racontais l'histoire de cette personne de New York, parce que de temps en temps on a besoin d'entendre les bons mots. Ils arrivent de façon parfois étrange aussi, hein. Enfin, une citation sur Facebook, je pense qu'il y a pas plus couillon, en fait, hein. Enfin, faut le dire, c'est pas un philosophe ou un coach qui m'a amené à ça, c'est une citation. Et je trouve que c'est ça ramène à à beaucoup de simplicité, en fait, à beaucoup de simplicité. Et c'est vrai que quand tu es auteur ou podcasteur, tu as le retour de tes actions parce que tu as des gens qui prennent le temps. Moi, j'en reçois des emails, je les lis. Alors, de temps en temps, je n'y réponds pas, mais je les lis avec beaucoup, beaucoup d'attention. Des gens qui prennent le temps de te faire un retour et tu connais la portée de ton action. Et comme tu dis, le contenu, on juge le contenu de l'autre. Je suis niée par cette anecdote. À un moment donné, sur le site, j'avais... Eve, qui produisait parfois du contenu chez nous, elle avait produit, alors, du haut de ses 21 ans, un article qui, pour moi, j'avais trouvé ça complètement nul, une redite. Je m'étais dit, mais enfin, tout le monde le sait, ça. Elle avait publié, et puis je m'étais dit, ben voilà, mon avis n'est pas l'avis des autres. Et ben, cet article, il avait cartonné. Et je m'étais rendu compte, ben, qu'à une population correspond à un type de narratif, un type d'écriture, et qui on est pour juger ce qu'il faut faire, en fait, et comment la personne va l'accueillir. Donc, c'est pour ça, maintenant, je laisse beaucoup de légèreté, de place à la simplicité, à du non-jugement aussi. Je crois que le jugement, c'est quelque chose dans notre société qui peut nous flinguer, en fait. Parce que par rapport à l'avis que les autres vont avoir de nous, on va s'empêcher d'avoir l'avis qu'on veut. Je te dis, attends, est-ce que tu crois que l'autre, il s'empêche? Et parfois, c'est vrai, l'autre s'empêche aussi de vivre la vie qu'il veut, du peur du regard que toi tu vas avoir dessus. Tu vois, tu te dis, mais attendez, c'est quoi ce délire, en fait? C'est quoi ce délire? C'est pour ça, l'authenticité des propos, ça va tellement plus vite. C'est, on est tous imparfaits. Une fois qu'on a fait, enfin, toi, moi, imparfaite, bon, bah, c'est bon, on va parler maintenant. Tu vois, et j'aimerais, ça, tu me demandais un conseil, je pense que c'est celui-là. Toi, moi, imparfaite, bon, bah, nous, essayez, quoi.
Génial. Un immense merci, Catherine. Et puis, à très vite, j'espère, dans la vraie vie, en dehors de nos écrans.
Merci pour l'invitation et comme j'aime ton podcast.
C'est sympa. Merci beaucoup, ça me touche. Au revoir.
Au revoir à toutes.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur pourquoipasmoi.co, car Catherine vous fait gagner des livres. En attendant, je te dis à demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Belle semaine.